Créative 2007. Premier tour. Le débat de France Inter. Première partie. Un débat arbitré par Stéphane Paoli avec Hélène Jouan.
Bienvenue à vous, car il y aura, vous l'avez compris, donc une deuxième partie à partir de 19h10 et jusqu'à 20h dans le téléphone sonne avec Hélène Bédoué. Et vous pourrez à ce moment-là, comme d'ailleurs jeudi dernier, poser toutes les questions que vous souhaitez à nos trois invités d'aujourd'hui. Madame Elisabeth Guigou, bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes candidate socialiste dans la 9e circonscription de Seine-Saint-Denis à Bondy. Vous êtes députée sortante, ancien ministre des Affaires européennes, ancien ministre de la Justice, ancien ministre de l'Emploi et de la Solidarité. Vos questions aussi à Jean-François Copé. Bonsoir, monsieur Copé.
Bonsoir.
Candidat UMP dans la 6e circonscription de Seine-et-Marne à Meaux. Vous êtes député sortant, vous êtes maire de Meaux, ancien ministre délégué au budget, ancien porte-parole du gouvernement Villepin et candidat à la présidence du futur groupe UMP à l'Assemblée nationale. On en parlera tout à l'heure. Bonsoir à vous, monsieur Gollnisch.
Bonsoir.
Vous êtes candidat pour le Front national dans la 13e circonscription du Rhône, à mes yeux dessine. Vous êtes directeur de campagne, vous étiez directeur de campagne du Front national et vous êtes directeur de campagne pour les législatives. Vous êtes député européen. Alors, Hélène Jouan, bien entendu, qui dirige le service politique de France Inter, est à mes côtés pour cette première partie du débat. Dans un entretien accordé au Figaro ce matin, le président Sarkozy disait vouloir une République irréprochable, une démocratie exemplaire. Et il était question à nouveau dans cet entretien d'un statut de l'opposition, alors que nous sommes à 3 jours du premier tour des législatives. Madame Guigou, comment percevez-vous cet enjeu du statut de l'opposition? Est-ce qu'il vous convient d'ailleurs?
Moi, je pense que pour que la démocratie respire et pour qu'elle fonctionne, en vérité, il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs. La démocratie, ce sont des contre-pouvoirs. Ça fait 2 siècles et plus qu'on sait ça. Et par conséquent, il est très important que le nouveau président de la République, M. Sarkozy, ne concentre pas dans ses mains tous les pouvoirs. Il est donc très important, si on veut aller dans le sens de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ouverture, ce qui est à la mode, qu'il y ait une forte opposition à l'Assemblée nationale. Voilà notre objectif, et je pense qu'il faut en effet que cette opposition puisse travailler, qu'elle ait le droit de s'exprimer. Dans la campagne électorale, nous avons entendu M. Sarkozy promettre que l'opposition aurait la présidence de la Commission des Finances.
Il le redit dans l'entretien au Figaro, il insiste
alors,
là-dessus.
Alors, tant mieux, parce que j'avais cru entendre que M. Copé, qui est là avec nous cet après-midi, était moins affirmatif ces jours derniers.
Non,
vous allez nous dire ce que vous en pensez.
Si vous m'interviewez, Mme Guigou, je vous répondrai avec plaisir.
Moi, je vous ai entendu dire sur une radio, pourquoi pas.
Voilà.
Non. On fait ou on fait pas. On donne ou on donne pas la présidence de la Commission des Finances à l'opposition. Et par ailleurs, il serait très souhaitable que, comme au Royaume-Uni, que je connais bien pour avoir été auditionné souvent dans mes fonctions ministérielles par les commissions de parlementaires au Royaume-Uni, et notamment la Chambre des communes, je pense qu'il serait très important de donner aux commissions parlementaires et notamment à l'opposition un droit de regard sur l'application des politiques du gouvernement.
Alors, Monsieur Copé, puisque vous êtes aussi mandaté par le Premier ministre pour réfléchir à une réforme du rôle du Parlement, commençons par cette question importante du statut de l'opposition et précisément de la présidence de la Commission des Finances.
Oui.
Commission des Finances ou pas pour l'opposition?
Oui, alors d'abord je voudrais dire à Madame Guigou qu'il faut être fair-play dans la vie. Pourquoi pas? Vous avez le droit aussi de l'interpréter positivement, parce qu'il est tout à fait positif. Simplement, je dis pourquoi pas, parce que c'est pas moi qui suis décideur, et simplement j'ai trouvé que l'idée était forte, celle du président de la République, elle était originale, et permettait à un ancien ministre du budget, par ailleurs porte-parole de carrière, de vous dire que je trouve très bien qu'on ait une réflexion sur le statut de l'opposition, et y compris sur la présidence de la Commission des Finances. Je trouve que c'est une idée qui est moderne, je pense même que, de ce point de vue, on peut faire progresser le débat. J'ai simplement ajouté à cela deux petits amendements ou de petits codicilles. Le premier, c'est que je pense qu'à partir du moment où on réfléchit à un statut de l'opposition, et donc on se dit, ben voilà, on peut effectivement imaginer qu'il y ait des pouvoirs bien équilibrés, bien plus équilibrés, sachant d'ailleurs que c'est pas dépendant du nombre de députés de l'opposition qu'il y aura, qu'il y en ait beaucoup ou pas beaucoup, il y aura un statut de l'opposition.
Oui, enfin,
mais
quand
en tout
les
état
députés de l'opposition sont plus nombreux, ils sont quand même plus capables
ça, c'est
de
votre
faire
affaire, mais il faut d'abord convaincre les électeurs, mais ça c'est un autre
bien
sujet.
Bien entendu.
Mais ce que je veux dire simplement, c'est que quel que soit le nombre des députés d'opposition, le fait qu'il y ait un statut d'opposition est une idée qui est tout à fait moderne. Simplement, ce que je veux dire, c'est que j'ajoute à cela un élément qui, me semble-t-il, est un élément de contrepartie, c'est d'en appeler à la responsabilité. C'est-à-dire que je pense que, dans ce cas, il faut peut-être faire évoluer les pratiques de l'opposition parlementaire. Les Français, par exemple, trouvent grotesque qu'on dépose 120 000 amendements pour bloquer un texte quand on n'est pas d'accord avec ce texte. Je pense de la même manière que réfléchir à un statut.
Tous les partis l'ont fait quand ils étaient dans l'opposition.
Alors là, vous avez totalement raison. Mmh. Moi, je me souviens quand j'étais plus petit, je me souviens très bien que la droite l'avait fait que sous Mitterrand, etc. Non, mais c'est, bien sûr. Mais l'opposition, hein, on parle bien de ça. Et c'est vrai que c'est assez grotesque. Deuxième chose, je crois que c'est important de réfléchir à un statut de l'opposition. Peut-être pourrait-on aussi saisir cette occasion pour réfléchir à un statut de la majorité. Non pas d'ailleurs pour dire qu'il y en a trop ou pas assez, mais par exemple réfléchir à la relation entre la majorité et le gouvernement. Que c'est bien aussi que les députés, les ministres, par rapport aux députés de la majorité, se sentent un certain nombre de devoirs autant que de droits.
Mais ça s'appelle une réforme constitutionnelle, ça, non ?
Pas forcément, non, je pense que dans le cadre... Alors peut-être qu'il y a des points de détail sur lesquels on peut évoluer, mais je pense qu'il y a des tas de sujets qui relèvent du règlement intérieur, par exemple sur la procédure législative, qui devraient pouvoir faire l'objet d'un débat entre nous. Et si mes amis me font confiance, mes amis députés, si nous gagnons les élections législatives et que nous avons la majorité, et qu'ils me font confiance pour m'élire président du groupe de l'UMP... Eh bien, sans attendre, je proposerai qu'on constitue un groupe de travail sur ces différentes propositions à l'intérieur de la majorité, puis bien sûr, si les uns et les autres veulent bien avec l'opposition.
Ça, sur ce point précis,
pardon. C'est intéressant.
Si vous permettez, juste sur ce point précis, Madame Guigou, avant de vous entendre, c'est important parce qu'au moment où on s'interroge sur la présidentialisation du régime, vous insistez, vous, sur un rôle du Parlement qui, de votre point de vue, à vous écouter en tout cas, semblerait pouvoir être plus important, accru.
Mais en tout état de cause, je pense que il faut regarder ce qui se passe dans le reste du monde. Vous savez, quand on regarde les pays, par exemple les pays européens, tous les parlements nationaux des pays européens, depuis 10 ans, ont constaté qu'il y avait un poids de plus en plus fort des normes européennes et de la décentralisation. Et du coup, ça réduisait le rôle des parlements nationaux. Et donc, un certain nombre de pays, c'est pour ça que moi, dans le club que j'ai créé, GénérationFrance.fr, on fait beaucoup de comparaisons internationales. On a vu, par exemple, en Grande-Bretagne, qu'ils ont constitué un NAO, National Audit Office, par lequel ils font un contrôle de l'efficacité des politiques publiques. Eh bien, on pourrait imaginer, par exemple, en tout cas, c'est là-dessus que je travaille pour la mission que m'a confiée Monsieur Fillon, d'imaginer par exemple la création d'un organisme de contrôle et d'évaluation des politiques publiques rattaché à l'Assemblée, naturellement présidé par un conseil d'orientation avec, par exemple, des députés de la majorité de l'opposition, et qui surtout fasse à la fois une mesure d'impact avant qu'on fasse un texte de loi, qui contrôle pendant que la loi se met en œuvre, et qui évalue les résultats après. Ça se fait dans des tas de pays du monde. On pourrait, en tout cas c'est une piste que je propose, y réfléchir pour l'avenir.
Alors nous sommes, vous le savez, soumis à l'égalité stricte du temps de parole. On n'a pas encore entendu M. Gollnisch. Sur ce statut de l'opposition, votre...
Je pense d'abord une chose, c'est qu'une république irréprochable, ce devrait être une république qui n'accorde plus aucune place à des personnalités politiques qui ont été condamnées pour corruption, pour délit d'ingérence, pour recel, ou pour avoir, d'une façon générale, pour avoir mésusé de l'argent public. Or, je constate qu'il y en a, y compris dans le gouvernement. Je constate que certaines personnalités, comme M. Carignan, par exemple, portent les couleurs de la majorité lors de ces élections, et je pense que ceci est assez choquant. En ce qui concerne l'office dont parle Monsieur Copé, je suis un peu surpris parce que je croyais savoir qu'il existait déjà un office d'évaluation des choix budgétaires à l'Assemblée nationale, mais enfin ou auprès d'elle. Il existe une Cour des comptes dont les rapports sont excellents et dont les conclusions ne sont pratiquement jamais suivies des faits. Je crois que d'une façon générale, on est quand même dans le domaine de l'apparence et du gadget. Parce que qu'il y ait une personnalité de l'opposition qui préside une commission parlementaire, ça ne serait quand même pas la première fois. Moi, quand j'étais à l'Assemblée nationale en 86, je me souviens que la présidence de la commission des affaires étrangères à laquelle j'appartenais a été à un moment occupée par Monsieur Roland Dumas. Ce n'est pas cela l'essentiel. L'essentiel, c'est que dans ce que l'on ose encore appeler la représentation nationale, tous les courants de pensée soient représentés. Et ça suppose évidemment le scrutin proportionnel qui existait en 1986 et que Jacques Chirac s'est empressé d'abroger, et ce dont il résulte que des millions de Français ne sont pas représentés. Et ce qui suscite d'ailleurs la stupéfaction de mes collègues étrangers. Quand je leur demande combien il y a de députés du Front National, quand ils me demandent combien il y en a et que je leur dis qu'il n'y en a aucun, ils sont stupéfaits.
Alors, le président de la République, ce matin, toujours dans le Figaro, dit justement qu'il n'est pas opposé à une instauration d'une dose de proportionnelle, qu'il est prêt à ouvrir la réflexion. Est-ce que vous avez envie d'aller effectivement plaider votre cause auprès du président de la République ?
Non, nous n'allons pas demander des miettes. Ce n'est pas pour avoir quelques strapontins pour nous. Je dirais que ne l'a-t-il pas fait avant ? Que je sache, Monsieur Sarkozy est membre sortant d'un gouvernement qui, avec une majorité écrasante de 365 députés, et ce sont ceux-là qui convient de réélire, ou à mon avis de ne pas réélire, aurait pu faire toutes les réformes qu'il voulait. Les seules réformes qu'a faites Monsieur Sarkozy, qu'il s'agisse du scrutin régional...
Là, ce serait une avancée. Là, vous pourriez dire, non, bravo,
trop,
il fait quelque chose.
C'est trop facile, quand même.
Mais là, il est président
de la République. Il a été ministre de l'Intérieur. Il a, avec Raffarin, supprimé une part de proportionnalité qui existait dans les conseils régionaux, dans le but d'éliminer, si c'était possible, le Front National. Et ça a marché dans trois régions. Il a fractionné la France en circonscription à l'élection européenne dans le but encore de minorer le Front National. Et maintenant, on nous dit que, mais je suppose dans 5 ans. Dans 5 ans.
Normalement, les prochaines législatives, c'est dans 5 ans.
Oui, normalement, c'est dans 5 ans qu'on va aménager une dose. Nous n'avons aucune précision sur ce projet.
La phrase exacte est une dose minoritaire de proportionnel. Madame Guigou, la démocratie exemplaire passe-t-elle par ce changement important de la question de la proportionnelle dans le système électoral français?
Nous avons pris position sur une dose de proportionnel, mais je crois qu'il y a deux autres réformes qui seraient essentielles pour faire fonctionner correctement l'Assemblée nationale et pour revaloriser le rôle du Parlement. La première, ce serait d'instaurer le mandat unique pour les parlementaires. C'est la principale réforme. Si vous dites que moi je n'ai qu'un mandat, et je vous assure que je trouve que c'est déjà beaucoup. Donc, si vous voulez vraiment faire travailler l'Assemblée nationale et le Parlement, c'est ça qu'il faut faire. Est-ce que le gouvernement est prêt à s'engager là-dedans? C'est en effet une réforme constitutionnelle. Nous avons amorcé les choses en interdisant deux mandats exécutifs locaux, mais il faut aller plus loin. La deuxième réforme qu'il faudrait faire, c'est dans l'ordre du jour de l'Assemblée que le gouvernement accepte de ne pas avoir à lui seul la maîtrise de l'ordre du jour pour laisser au Parlement, y compris à l'opposition, la faculté d'élaborer des propositions plus importantes.
Ça existe, mais de façon très minoritaire
mais
aujourd'hui.
Mais on parle de niches, c'est voilà. Vous dire. Et alors, les niches de l'opposition, par rapport aux niches de la majorité, c'est rien du tout. Troisièmement, je crois qu'il faudrait vraiment, si on voulait revaloriser, dire qu'en effet, le Parlement est vraiment un pouvoir de contrôle. Il y a des organismes qui existent, c'est vrai, qui nous fournissent des éléments extrêmement importants, mais je pense qu'il faudrait que le Parlement ait à sa disposition, comme ça existe dans les parlements étrangers, des services à lui, à la fois pour le contrôle du gouvernement et pour la prospective. C'est quand même inouï que nous soyons le seul parlement en France dans lequel nous n'avons pas de service propre de prospective. En Finlande, dans les démocraties du nord de l'Europe, au Canada, aux États-Unis même, vous avez au Congrès des organes qui sont là pour que les parlementaires réfléchissent à l'avenir dans tous les domaines, que ce soit en matière de politique étrangère ou en matière de politique intérieure. C'est très important.
Alors, beaucoup de choses là, monsieur Copé.
Oui,
le mandat unique d'abord peut-être.
Je vais finir par là. Oui. Je vais vous prendre les trois points, je les ai notés. D'abord, je suis très content d'entendre madame Guigou. Je constate qu'il n'y a pas une très grande divergence avec ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur la manière de développer la fonction de contrôle, d'autant que j'ai pris le soin de dire que dans mon esprit, il faut qu'il y ait des députés de la majorité et de l'opposition. Je crois simplement qu'il faut nourrir ce contrôle, il ne faut pas se tromper. On n'est pas là pour faire un shadow cabinet, on n'est pas là pour prendre des députés qui vont s'opposer systématiquement au gouvernement. Je rappelle que le système de la 5e République, ce n'est pas celui de la 3e avec des majorités confuses, avec de l'immobilisme et des intérêts personnels. La 5e République, c'est un Parlement qui est là pour débattre, pour discuter, pour amender, mais aussi pour voter et accompagner les réformes du gouvernement, parce que l'objectif, c'est que ces réformes, elles aient lieu. Les Français, ils veulent des résultats, qu'on soit pour ou contre, mais ils ont voté pour des résultats, et la majorité, elle est d'abord là pour soutenir le gouvernement. Mais l'idée du contrôle, c'est un métier nouveau, moderne, mieux contrôler l'efficacité gouvernementale, je trouve que c'est vraiment super moderne, et ça correspond à ce qu'on peut souhaiter en y associant majorité-opposition. Sur la question de l'ordre du jour, on peut toujours y réfléchir. Justement, moi, c'est ce que je pense, c'est qu'on doit pouvoir réfléchir en termes de règlement intérieur entre l'opposition et la majorité pour voir comment assouplir certaines procédures de discussion qui sont insupportables de longueur, de lenteur. Ça se passe la nuit, c'est crevant pour tout le monde. Il y a 3 chats dans l'hémicycle, ça intéresse personne. Et qu'en revanche, on se concentre sur l'essentiel du débat qui intéresse les gens. Et ça, je crois que pour le coup, on a des progrès à faire dans ce domaine, si j'en crois ce qu'on peut regarder dans les autres démocraties. Bon,
alors
l'affaire du mandat unique maintenant. Moi, j'ai un avis radicalement opposé à Elisabeth Guigou et ses amis.
Tiens.
Je suis désolé. j'ai vu que tout à l'heure, vous me rejoignez sur le contrôle. Donc là-dessus, par contre, sur le mandat unique, j'ai un avis contraire. Je pense même, pour tout vous dire, que cette affaire de mandat unique, c'est généralement ce que l'on dit, quoi, soit quand on a une difficulté dans les sondages, soit quand on veut absolument faire un coup d'éclat démago. Je le dis comme je le pense. Moi, je suis totalement opposé au cumul de 3, 4, 5 mandats. C'est grotesque. Et d'ailleurs, ça fait 15 ans que ça n'existe plus. Je suis en revanche très favorable au cumul d'un mandat national et d'un mandat local. Moi, j'ai été ministre et maire de Meaux. Député, peut-être, si mes électeurs me font confiance durant ces élections législatives, et maire de Meaux. Eh bien, c'est fantastique. Parce que quand vous êtes à l'Assemblée, vous racontez ce que vous vivez sur le terrain en tant que patron d'une municipalité, vous êtes en responsabilité.
Mais moi, je fais ça, j'ai pas besoin d'être maire pour ça, je suis sur le terrain.
C'est sans doute, Madame Guigou, parce que, pardon, ne le prenez pas mal, vous n'avez pas été maire. Parce que quand on est maire, on prend la mesure de la différence des choses. Quand on est maire, ce que l'on décide, ça va se faire. Moi, je peux témoigner que ce que j'ai fait dans ma ville depuis maintenant une dizaine d'années, ça a changé les choses. En bien ou en mal, on peut chacun en débattre, mais ça a changé les choses. Vous êtes en responsabilité, vous prenez des décisions. Et donc, quand vous débattez à l'Assemblée ou au Sénat, vous n'avez pas la même expérience, et l'expérience que vous apportez est extrêmement utile à l'Assemblée nationale. Et inversement, quand vous êtes maire et que vous avez un mandat national, ça vous permet, je le dis comme je le pense, d'accéder à Paris, au couloir ministériel, pour valoriser vos projets,
donc
pour les
expliquer.
Donc
c'est une inégalité finalement entre les élus.
Mais, sauf que, après, bien entendu, il y a le suffrage universel. Il est donc normal que celui qui est élu soit élu, celui qui a été battu, ben il est battu, mais il est important pour
la qualité. Non, mais il faut absolument être maire et député.
Non, mais il ne faut pas absolument, mais je veux dire par là, Hélène Jouan, que c'est, me semble-t-il, une formidable richesse dans le débat, que d'avoir à l'Assemblée nationale des gens qui ont cette expérience de patrons d'exécutifs locaux, mairies, conseils généraux ou conseils régionaux, pour apporter cette expérience au débat, c'est utile sur le terrain et c'est utile à Paris. Et je trouve que c'est très démago de vouloir dire ça sous-entendu, ah bah ils en font trop, ah bah ils gagnent trop, etc. Ça d'abord, je trouve que
vous travaillez beaucoup de fait, si vous êtes ministre
oui,
et maire.
Oui, vous savez, il y a longtemps que de toute façon on travaille beaucoup dans ces métiers.
Il y a des gens qui disent, mais ils n'arrivent sûrement pas à tout faire,
bah, écoutez,
et peut-être
pas
à tout faire
bien.
Naturellement,
ce qui me
naturellement qu'ils n'arrivent pas à tout faire.
J'ai cumulé les deux mandats.
Bruno Gollnisch, sur ce... Parce que ça, c'est un point très important tout de même. Cette question du rôle et du nombre des mandats.
Du cumul des mandats. Je pense que un mandat local apporte un éclairage au mandat national et vice-versa. Et qu'il ne faut pas aller au-delà. Ça, c'est certain.
Ça, il faut pas aller au-delà.
Il y avait des gens qui avaient 3, 4, 5, 6, 7 mandats quelquefois, autrefois. Ça n'est plus possible.
Bon,
c'est très bien. Le problème de l'Assemblée nationale, ceci étant, c'est l'absentéisme contre lequel le groupe Front National, entre 1986 et 88, quand nous avons été présents à l'Assemblée nationale, a vigoureusement protesté et a manifesté par sa présence, par son ardeur, ses interventions, ses propositions de loi, qu'il prenait ce travail législatif au sérieux, parce que, disons les choses clairement, chacun le sait, l'Assemblée nationale, et je conseille à tous les citoyens qui peuvent y avoir accès aux séances de nuit de venir, il suffit de se présenter Quai d'Orsay, et ils verront que c'est un théâtre vide, la plupart du temps, sauf dans la séance des questions au gouvernement, entre 15h et 17h les mercredis, parce que c'est télévisé par France 3. Nous savons tous cela. Et je voudrais dire juste une chose sur incrimine la proportionnelle, si j'ai bien compris ce qu'a dit M. Copé, comme la 3e et la 4e République. La 3e et la 4e République n'ont pas fait que de mauvaises choses. On incrimine la proportionnelle de provoquer l'instabilité ministérielle. Ce n'est pas du tout une nécessité, il y a des correctifs à cela. Par exemple, il y a des pays comme l'Allemagne qui ont la proportionnelle, mais où on ne peut renverser un gouvernement que si l'on dispose d'une majorité absolue. Autrement dit, on ne peut renverser un chancelier... un premier ministre, que si l'on s'entend sur le nom de son successeur. C'est un correctif. Ce correctif existait dans les régions en 1998 et des exécutifs minoritaires dans les régions ont pu gouverner. Pourquoi ? Parce que le président de la région, s'il ne parvenait pas à faire passer son budget, mettait en demeure l'opposition de réunir une majorité sur un contre-projet et sur le nom de son successeur. Ça ne s'est pas fait et par conséquent il y a une totale stabilité. Je crois qu'il faut que les courants d'opinion soient représentés, y compris par exemple le courant d'extrême gauche. Je suis tout à fait hostile aux idées de monsieur Besancenot, de madame Laguiguet, mais je pense que l'Assemblée nationale, c'est le lieu où doivent s'exercer où doivent s'exprimer les tensions sociales. Si elles ne s'expriment pas à l'Assemblée, elles s'exprimeront dans la rue et ce sera très gênant.
Et là où il est question aussi de la modernisation de la vie politique française, quand Madame Guigou dit il nous faudrait des éléments, une capacité prospective dans l'enceinte même de l'Assemblée, est-ce que vous y voyez les uns les autres? Vous n'avez pas répondu d'ailleurs là-dessus,
mais
Monsieur Copé.
Il y a déjà des services qui fonctionnent très bien. Par exemple, le service de documentation étrangère vous fournit des études extrêmement fouillées.
Ah, c'est pas la même chose, hein, tout à fait. Ce là, c'est de la documentation, la c'est pas une réflexion prospective.
Il y a des offices d'évaluation, il y a quand même beaucoup d'organismes de conseil. Je veux bien qu'on les augmente. C'est toujours assez coûteux pour le contribuable. Qu'on les augmente, c'est très bien, mais surtout qu'on les écoute, alors.
Oui, d'abord, c'est vrai que l'idée, c'est pas forcément de créer ça ex nihilo parce que ça coûte de l'argent. Par contre, on peut imaginer que l'État, puisque vous savez que Monsieur Fillon a proposé à plusieurs reprises de supprimer un certain nombre d'organismes qui aujourd'hui travaillent pour l'État, on peut imaginer un transfert dans ce domaine-là et qu'ainsi, ça serait à coût constant et que cet organisme qui travaillerait aujourd'hui pour le compte de l'État puisse demain travailler pour le compte du Parlement. Deuxièmement, il va de soi. Je rejoins ce qui a été évoqué. Je suis très content de voir qu'Elisabeth Guigou d'ailleurs réagit plutôt pas mal à ces idées de contrôle et d'évaluation.
Je propose et vous réagissez, si vous permettez, sur ces deux derniers points, quand même.
Si je peux me permettre, il me semble avoir sur ce point proposé en premier. Mais cela dit, je n'ai aucun problème à le partager avec vous. Bon. Mais vraiment aucun. Nous avons suffisamment de désaccords par ailleurs.
D'accord.
Ne serait-ce que par élégance, je serais ravi de vous accorder la maternité de cette
idée.
Mais en tout état de cause, peut-être juste pour finir là-dessus, simplement pour dire qu'effectivement, il va de soi qu'à partir du moment où on a des outils nouveaux pour évaluer et contrôler, il faut bien sûr pouvoir faire de la prospective.
Non, sur la prospective. Il y a en Finlande un système qui est formidable. C'est-à-dire, vous avez évidemment beaucoup de personnes qui travaillent dessus pour le Parlement. Mais chaque année, il y a un rapport et le Parlement demande au gouvernement de venir s'expliquer sur les engagements prospectifs qui ont été pris. Où va le pays dans les 10 ans, 5 ans, 15 ans? On se rapproche et on fait un point chaque année. C'est-à-dire que le Premier ministre vient devant le Parlement pour rendre compte de cette prospective à long terme. Et je crois que c'est très important. Parce que si on veut en effet obtenir des résultats, sortir de ces systèmes dans lesquels il y a des oppositions, quelquefois stériles, je pense qu'il est très important de créer un nouvel état d'esprit. Et voyez-vous, en dehors des réformes constitutionnelles ou techniques dont nous venons de parler, je crois que c'est un nouvel état d'esprit entre la majorité et l'opposition. Et j'aimerais bien, Monsieur Copé, que vous disiez à Monsieur Fillon que c'est pas en traitant et en insultant l'opposition, comme il l'a fait encore ces deux derniers jours, qu'on arrivera à créer ça. Parce que c'est pas en dénigrant l'opposition, c'est pas en la mettant plus bas que terre, c'est pas en... Moi, j'ai été révoltée, vraiment, d'entendre ça. Et je pense que...
François Fillon a parlé d'imposture morale,
mais
c'est
oui,
ça, pour la gauche.
Si, voilà. Vous comprenez, imposture morale, ça a quoi? Ça a un goût de revanche, ça. Comme si nous étions illégitimes. Alors ça, c'est un déni de démocratie. Et je pense que pour faire fonctionner tous ces organismes dont nous venons parler, il faut changer d'état d'esprit. J'ajoute que sur le mandat unique...
J'aurais aimé vous avez associé les mêmes cris d'orfraie lorsqu'on a eu les torrents d'injures auxquels on a eu droit à l'encontre de Nicolas Sarkozy durant la campagne présidentielle, venue des rangs de vos propres amis, Madame Guigou.
Je veux revenir juste sur le mandat unique. Je pense qu'il ne faut pas cumuler le mandat parlementaire avec un mandat exécutif local, c'est-à-dire un mandat de maire ou de président de conseil général ou de président de conseil régional. Maintenant, être parlementaire et être en même temps conseiller municipal ou conseiller général, on n'a pas de responsabilité exécutive, pourquoi pas?
Alors, on va en venir maintenant tout de même sur l'enjeu de ces législatives, parce que... Oui, un mot, Monsieur Gollnisch.
Oui, précisément, parce que j'ai l'impression que notre discussion est un peu une discussion... C'est une discussion intéressante, mais c'est un peu une discussion d'oral de Sciences Po.
Ça vous intéresse de savoir comment vous pouvez, vous voulez faire évoluer ou pas
le système politique français
et le moderniser.
Non, c'est important. Et cette discussion est légitime. Mais ce qui me frappe quand même dans la vie politique de la France aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que nous sommes tous au même point, c'est-à-dire que nous avons affaire à des personnes qui n'ont jamais exercé les responsabilités du pouvoir, qui n'ont jamais disposé de majorité, qui n'ont jamais été au gouvernement. Or, le problème de M. Copé, je m'excuse de le lui dire, mais ce n'est pas de nous proposer ce qu'on peut améliorer en matière d'évaluation des choix dans l'avenir. C'est de rendre compte du bilan, à mon avis, nullissime, de la majorité de 365 députés UMP qui, pendant 5 ans, ont eu tous les pouvoirs en main et qu'ont-ils fait pour réformer la
Il va y avoir un vote dimanche et ce sont les électeurs qui vont apporter les réponses qu'ils entendent donner.
Dans ces moments-là qu'on se dit que parfois la politique c'est moche. Excusez-moi, M. Gollnisch, mais enfin très franchement, on est sans doute très nuls.
Mauvais.
Vous avez dit nullissime. C'est très élégant. Venant du Front National, qui a fait ses scores les plus bas historiquement, je dois dire que c'était vraiment l'hôpital qui se moque de la charité. Non, mais j'ai bien compris que c'était pas la question, mais enfin c'est ma réponse.
On a fait un mauvais score. Vous avez fait un très bon score, mais vous n'avez pas rendu compte de votre bilan.
J'ai bu vos paroles, si vous me donnez un instant, je vais essayer d'en placer une.
Je vous en prie.
Merci. Donc, premier point, moi, ce que je veux simplement vous dire là-dessus, c'est que les Français se sont exprimés en connaissance de cause. Ils connaissent parfaitement l'action que nous avons conduite depuis 5 ans, et ils ont jugé que c'était peut-être pas si mauvais que ça, puisque ça valait la peine de conduire l'un des nôtres, en l'occurrence Nicolas Sarkozy, à la présidence de la République, avec un programme très innovant par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais qui a un certain nombre de continuités, au moins sur la volonté de réformes courageuses. Donc voilà, les Français, ils ont tranché. Non mais c'est comme s'il n'y a pas eu une présidentielle. Il y a eu une présidentielle avec un vote.
Il y a justement une ambiguïté terrible là, je serai très bref. Monsieur Sarkozy, il incarne la continuité ou il incarne la rupture? Parce qu'on peut pas incarner les deux à la fois. Ça, c'est complètement schizophrène.
Ah bon? Ah ben, pas du tout, ça dépend des sujets.
Mais attendez, là, si vous me permettez, messieurs, vous êtes en train de reprendre un débat sur un épisode qui est passé, qui était présidentiel, et nous parlons des législatives. Alors, si vous le permettez, revenons aux législatives, parce qu'elles posent des questions particulières, et notamment, et aussi pour vous, et pour le Parti Socialiste, Madame Guigou, peut-être la question des alliances. On va pas revenir sur la situation dans laquelle se trouve le Parti Socialiste aujourd'hui. Ça va être difficile. Peut-être même, ça sera aussi difficile que ça a pu l'être en 93. Est-ce qu'au sein de votre mouvement, vous vous posez aujourd'hui la question des alliances, et par exemple avec M. Bayrou?
Mais avant de se poser ce type de questions, vous savez, moi je crois qu'il ne faut pas sauter les échéances.
Il faut voir les résultats, oui, sûrement. Mais
c'est comme ça qu'on les perd. Là, nous avons des élections, un premier tour dans 2 jours. Nous en avons un deuxième tour dans 10 jours. Eh bien, nous devons être absolument concentrés là-dessus. Et il n'y a pas à se poser la question d'alliance ou pas alliance. Nous avons d'abord de graves soucis sur l'avalanche de catastrophes. Là, moi, je peux vous dire, les électeurs de Seine-Saint-Denis que je représente, qui va nous tomber dessus après le 18 juin. Parce que pour l'instant, on est tout miel, nous avons de belles images à la télévision.
Le projet fiscal présenté aujourd'hui, vous trouvez formidable?
Non, mais c'est ça, vous comprenez. C'est qu'on ne se rend pas compte que dès que l'Assemblée nationale va être en fonction, il va falloir voter l'instauration des 4 franchises nouvelles sur l'accès aux soins. Il y en a déjà une de 1 euro sur les consultations chez le médecin, de 18 euros sur l'hôpital, il faut les sortir de sa poche. Hein. Et il y en aura 4 nouvelles sur les visites chez le médecin, sur les analyses médicales, sur les médicaments et sur l'hôpital. Je peux vous dire que mes électeurs de Seine-Saint-Denis, en tout cas, qui, dont la plupart n'ont pas de gros moyens, ben, ils sont très inquiets de ça. Parce qu'ils se demandent si on va pas vers une sécurité sociale à 2 vitesses, si on va continuer à avoir des budgets pour les hôpitaux, s'ils vont pouvoir continuer à se faire soigner. Mais oui, alors vous êtes peut-être ailleurs, mais moi je peux vous dire qu'ils comprennent, ils commencent à comprendre que ce gouvernement va faire une politique pour Neuilly, et pas pour la Seine-Saint-Denis. La réforme fiscale qui est annoncée ce matin, on a quand même 3 réformes, là, qui vont coûter au total entre 12, vous voyez, je suis raisonnable,
le ministre de l'économie dit entre 12 et 15 milliards d'euros.
5 milliards d'euros pour chacune des 3, entre le bouclier fiscal, l'impôt sur les successions et la détaxation des heures supplémentaires. Eh bien, ça représente 3 points de TVA. Voilà. Et donc, comment va-t-on les financer? On va donner aux plus riches, parce que quand même, le bouclier fiscal, c'est 90 000 foyers fiscaux. 90 000, c'est les plus privilégiés. Et on va faire financer ça par l'augmentation des impôts que paye tout le monde, c'est-à-dire par la baisse du pouvoir d'achat des plus modestes.
Donc, c'est sûr, il y aura une hausse de la TVA,
C'est une politique qui est clairement classée à droite et destinée aux plus privilégiés. Non seulement elle est inégalitaire sur le plan social, mais elle est inefficace sur le plan économique, parce que quand on comprime le pouvoir d'achat du plus grand nombre, eh bien, on ne stimule pas la croissance économique, c'est le moins qu'on puisse dire.
Écoutez, moi, je vous dis une chose. Oui. Ce discours du chiffon rouge qui annonce le cataclysme, on nous l'a fait, à gauche, Madame Royal en tête, et vous aussi d'ailleurs, comme d'autres de vos amis, pendant 6 mois. Vous allez voir, quelle horreur. Nous, avec Nicolas Sarkozy, on n'a eu qu'une idée, c'était d'expliquer aux Français, en long et en large, avec la plus grande transparence, tout ce que nous allions faire, en leur mettant les choses clairement sur la table, et en leur disant que notre objectif, notre marque de fabrique, c'est de tenir tous nos engagements sur tous les sujets.
Même celui du financement de toutes ces mesures.
Y compris le financement
de toutes
ces mesures.
Parce que c'est vrai que pour l'instant, on a l'impression que vous dépensez
beaucoup. Absolument pas, Hélène Jouan, c'était absolument inexact. Nous avons pris tout le temps de le faire, je peux en parler en connaissance de cause, puisque je suis de ceux qui avons travaillé sur le financement de ce projet. Et en l'occurrence, les baisses d'impôts à hauteur de 15 milliards, elles ont été annoncé et on a parfaitement expliqué comment on allait les financer. On va les financer de deux manières, et vous le savez très bien, Madame Guigou, on va les financer d'une part avec des économies très importantes, et j'ai fait la démonstration en lançant tout un programme d'audit l'année dernière qu'on pouvait réaliser des économies considérables sur l'efficacité de l'État en utilisant Internet, en réorganisant les services administratifs, en réorganisant la politique d'achat, la politique immobilière, en vendant des hôtels particuliers,
à quelle hauteur du coût financier,
etc. Et deuxième élément, tout ce qui concernera les gains de croissance économique, parce que quand vous rendez de l'argent aux Français en baissant les impôts, comme on va le faire... Mais je vais venir après à ça. Oui. Quand vous rendez de l'argent aux Français sur l'accession à la propriété, par exemple, avec les intérêts déductibles, quand vous rendez de l'argent aux Français en les payant plus sur les heures supplémentaires, etc., qu'est-ce qu'ils font avec ? Ils consomment, ils investissent, ils embauchent, et ça fait de la croissance, et donc des recettes supplémentaires. Donc vous avez deux leviers parfaitement clairs. Et Madame Guigou, vous le savez très bien. Et j'ajoute, pour être tout à fait complet, que je ne supporte plus cette manière d'opposer sans arrêt les méchants riches et les gentils pauvres. La vie, elle est parfois plus compliquée que ça, et j'assume de dire qu'on a besoin de chaque Français, quelle que soit sa situation. Et d'à force d'avoir pointé du doigt les gens qui réussissent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils partent. Et il y a un moment où il faut se rappeler que quand les plus fortunés, qui ont des bons conseillers fiscaux, s'expatrient, sur qui ça retombe la charge fiscale ? Parce qu'ils ne payent plus d'impôts en France à ce moment-là. Ça retombe sur les classes moyennes, c'est-à-dire les gens qui bossent. Et je crois qu'on a le droit d'assumer, comme dans les autres pays européens, y compris d'ailleurs ceux de gouverner par des gouvernements de gauche, genre en Espagne ou genre en Italie, qu'on a besoin de tout le monde. Alors le dernier point que je voudrais dire, c'est qu'il faut arrêter avec la désinformation. Nous tiendrons nos engagements sur la baisse des déficits et sur la baisse de la dette. Le président de la République l'a dit. Nous tiendrons tous nos engagements sur ce qui a été dit durant la campagne, aussi bien sur ce qui concerne le pouvoir d'achat des Français, les baisses d'impôts et la modernisation de nos structures.
C'est pas de la désinformation, ce serait un changement de pratique, c'est tout. Mais de la part de tout le monde. Tenir tout à coup tous ces engagements, vous comprenez qu'on juste on puisse.
Mais c'est tout à fait normal. Mais attendez, mais c'est tout à fait normal que vous posiez des questions, et c'est même d'autant plus normal que beaucoup de Français qu'on a rencontrés nous ont expliqué en long et en large. Est-ce que vous tiendrez dans nos meetings? C'est d'ailleurs très marrant que les gens qui sortent des meetings de Madame Royal, par exemple, on l'a vu dans les interviews de télé, ils disent ah ben on a rêvé pendant 2 heures, mais on n'y croit pas trop quand même. Bon, nous quand ils sortent de nos meetings, les gens ils nous disent mais attendez, est-ce que vous tiendrez? Est-ce que vous tiendrez face aux grèves, face aux manifs, face aux sondages qui baissent ? La réponse est oui, parce que c'est notre marque de fabrique. Et c'est ça qui a permis cet élément majeur qui est l'effondrement du Front National. Parce que beaucoup de gens qui votaient pour le Front National depuis 20 ans ne le faisaient pas en voyant Monsieur Le Pen une espérance, ils le faisaient simplement parce qu'ils étaient désespérés d'une droite qui n'existait pas. Aujourd'hui, nous assumons de tenir nos engagements, et cette fois, ils nous font confiance, mais c'est pas un chèque en blanc. Et c'est pour ça que nous, on doit tenir nos engagements.
Alors Bruno les gens qui votaient et qui votent encore, il y en a quand même 4 millions, c'est encore une grande force politique française, qui vote pour le Front National, le faisait. Et alors, parce que d'abord, ils étaient conscients de votre bilan, premièrement. Deuxièmement, parce que les positions de Jacques Chirac ne leur convenaient absolument pas. Et si certains d'entre eux se sont reportés sur la candidature de Nicolas Sarkozy, c'est parce qu'ils ont cru que vous alliez enfin prendre en compte nos thèmes qui correspondent aux préoccupations des Français et même appliquer nos solutions. Je crois que certains commencent à y voir un peu plus juste. Et j'avertis les autres qu'ils risquent fort d'être déçus dans quelques mois.
Ça, c'est le discours que tenait Jean-Marie Le Pen il y a 48 heures. Vous y souscrivez mot à mot.
Je n'ai pas entendu. J'étais à Bruxelles. Oui, je crois vraiment que le succès actuel de l'UMP tient au fait qu'ils font croire précisément qu'ils sont en rupture avec tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, qu'ils ont souscrit à nos thèmes, on le voit bien, l'immigration, l'identité nationale, la rupture, etc., les allègements fiscaux, et un certain nombre de citoyens se sont dit, Nicolas Sarkozy a plus de chance que Jean-Marie Le Pen de parvenir à la présidence de la République, on va voter pour lui. Sur le plan économique et financier que vous avez évoqué, contrairement à Madame Guigou, moi je crois que, bien que nous soyons terriblement endettés, on peut et on doit faire des allègements fiscaux afin de relancer précisément la machine économique. La dette serait beaucoup plus supportable aussi si elle ne portait que sur des investissements productifs et non pas, si elle n'était pas constituée par les dépenses de fonctionnement de l'État que jusqu'à présent, Monsieur Copé, ce n'est pas une attaque insultante, mais il faut bien reconnaître, votre majorité et vous-même, vous avez laissé filer.
Donc pour l'instant, vous soutenez plutôt le projet fiscal de Nicolas Sarkozy qui a été présenté ce matin.
Par exemple, quand on m'a dit la détaxation, enfin la déduction de l'impôt du revenu imposable ou de l'impôt des intérêts des emprunts afférents à l'habitation principale allait être mise en œuvre, j'ai dit, Jean-Marie Le Pen a dit que c'était plutôt une bonne mesure. Et quand on nous a dit que, contrairement à ce qu'avait annoncé le ministre, Nicolas Sarkozy précisait que ça allait toucher également les emprunts en cours, nous avons dit, c'est très bien. Quand nous apprenons aujourd'hui que c'est plafonné à 20% des emprunts, que par mesure de sécurité, au cas où ces 20% seraient encore trop importants, c'est plafonné à 750 euros par personne, et que ça ne durera que 5 ans, alors que moi, je me souviens, quand j'ai débuté dans la vie, et que j'ai acheté la chambre que j'occupais, c'était déjà déductible 10 ans, j'ai l'impression qu'on reprend d'une main ce que l'on donne de l'autre, ou qu'on fait un effet d'annonce.
Ça sera plafonné à 3750 euros par personne, monsieur Gollnisch. C'est juste une précision, vous avez dit 750 euros, c'est tout.
Ah, j'avais compris, 750 euros
et 3750 euros.
La charge qui s'ajoute.
Voilà, ça s'ajoute après, chaque personne à charge vous permet de gagner 500 euros supplémentaires.
Ah, oui, un point précis ce matin. Une famille, vous faut avoir une famille très nombreuse.
Un point précis ce matin qui a été soulevé par François Hollande, monsieur Copé, sur les heures supplémentaires. François Hollande dit que le mécanisme mis en place va provoquer une hausse au minimum de 2 à 3 points de TVA. Que répondez-vous là-dessus?
Bah, tout dépend de la manière dont ce sera financé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être financé de deux manières. Premièrement, par des économies réalisées, parce qu'on va moderniser l'État de plus en plus et qu'il y a des gains de productivité à réaliser à tous les étages. Et deuxièmement, par le fait que quand vous créez plus de travail, quand il y a plus de travail produit, il y a plus de salaires versés. Quand il y a plus de salaires versés, eh ben les gens, avec ça, ils consomment, ils investissent, ils embauchent, et avec ça, ça stimule la croissance. Le problème de François Hollande, c'est que comme beaucoup des dirigeants socialistes français, il n'a pas crevé les abcès idéologiques. Il continue d'avoir un regard du 19e siècle. Il faut arrêter d'avoir cette vision-là, qui est une vision qui en consiste encore à dénoncer le capitalisme ou pas le capitalisme. Ça n'est pas le sujet. Les 35 heures est un échec monumental. Il faut le comprendre et l'assumer. Moi, je pense d'ailleurs que le Parti Socialiste aura véritablement entamé sa modernisation, au-delà des querelles de personnes qui sont très humaines et normales, le jour où il assumera que quand on perd une élection, on doit commencer par reconnaître qu'on a perdu. C'est pas une honte. Moi, j'ai perdu une élection il y a 10 ans. J'ai été battu dans ma circonscription parce qu'il y avait une triangulaire avec un Front National qui avait fait 23% des voix. Je sais ce que c'est que la défaite. Ce jour-là, j'ai recommencé à zéro. Eh bien, au niveau qui n'est plus élevé que le mien, un niveau national, le jour où le Parti Socialiste, au lieu de dire comme Ségolène Royal, le jour où elle perd, c'est une non-victoire, si juste une fois elle assume que c'est une défaite et que ça veut dire derrière une réflexion de fond sur ce que doit être la gauche française, eh bien je pense qu'on aura tous avancé.
Alors Elisabeth Guigou, dites-nous comment cette modernisation va s'amorce au Parti Socialiste, sous quelle forme?
Je vais répondre avec question. Vous permettez que je réagisse juste à ce que vient de dire M. Copé. Je crois, M. Copé, qu'il ne faut pas caricaturer ce que disent les adversaires politiques.
C'est ce qu'on nous dit à chaque fois qu'on fait une reproche.
Mais puisque vous accusez François Hollande de faire de l'idéologie, ce que je ne crois pas, moi je vais vous répondre par des faits. Depuis 5 ans que vous avez gouverné, car vous avez un bilan, eh bien, vous avez augmenté la dette, alors que nous l'avions diminuée. Vous avez augmenté les prélèvements obligatoires, alors que nous les avions diminués. Voilà votre bilan. Le déficit de la sécurité sociale, l'arriéré de déficit, est de 50 milliards d'euros, alors que nous avions rétabli l'équilibre de la sécurité sociale. Et le déficit de l'assurance maladie cette année, qui était programmé à 4 milliards d'euros pour la seule année 2007, c'était déjà beaucoup, c'est ce que le Parlement a voté, on nous annonce qu'il sera de 6 milliards d'euros. Alors vous dites, on va financer tout ça en faisant des économies. J'ai entendu M. François Fillon dire, en effet, on va financer le déficit de la sécurité sociale en luttant contre la fraude. Très bien, lutter contre la fraude. On ne doit pas tolérer les fraudeurs. Sauf que la fraude, la Cour des comptes, le chiffre à 120 millions d'euros. Alors c'est se moquer du monde de dire qu'on va financer un déficit de 6 milliards avec 120 millions d'euros. Ce que je crois, M. Copé, c'est que vous avez un projet, vous, en effet, très idéologique, qui consiste à dire, plus on lamine les services publics et on diminue en effet tout ce qui est public, et à ce moment-là, on peut financer en effet votre projet économique et fiscal qui consiste à privilégier en effet les plus privilégiés. Moi, je ne suis pas contre les baisses d'impôts, à la condition qu'elles soient équitablement réparties. Et d'ailleurs, quand nous avons baissé les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les impôts et les cotisations sociales, c'est bien ce que nous avons fait. Voilà.
Parce que je voudrais pas, pour que nos auditeurs comprennent ce débat.
D'un mot, alors. D'abord, parce que on va se trouver avec un problème de temps de parole.
La gauche qui nous donne des leçons de bonne gestion, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Je vous donne deux chiffres et vous allez le comprendre tout de suite. Vous me dites les impôts ont augmenté, les prélèvements obligatoires ont augmenté. Non, ils se sont stabilisés. Par contre, c'est vrai que s'ils se sont stabilisés, c'est parce que l'État a baissé les impôts, les régions socialistes les ont augmentées. Et deuxième point, le déficit budgétaire.
Disons-en,
pas du tout. Pas sur les régions, on n'a rien transféré sur les régions. Et enfin, le dernier point.
Et enfin,
non, pas du tout. On n'a rien transféré aux régions et vous le savez très bien. Et le deuxième chiffre, pour que les auditeurs aient ça en tête.
Et ce sera le dernier.
Lorsque Monsieur Jospin quitte le gouvernement, il laisse le déficit budgétaire de l'État à 49 milliards. Lorsque j'ai quitté Bercy, il était à 35,5.
Mais vous pouvez
milliards.
Aligner les milliards, mais en tout cas avec
mais vous
nous,
l'avez fait, c'est pour ça que
cas,
comme vous l'avez fait, je voulais le faire de mon côté
cas,
pour que nous soyons au moins à égalité aux yeux des auditeurs.
Je vais vous répondre en pourcentage du produit intérieur brut, Monsieur Copé. Mmh. Lorsque nous sommes partis, le déficit du budget de l'État était de moins de 2,5% du produit intérieur brut, c'est-à-dire inférieur au plafond européen de 3%, et vous... Vous êtes passé largement.
Mais qu'est-ce que vous racontez ? On est exactement revenu au même niveau, alors qu'entre-temps, on n'a pas eu d'année de croissance.
Alors,
on est au
plaît.
Même niveau exactement que ce qu'il était en 2002. Et en plus, on a baissé le déficit budgétaire de l'État.
Là, on a quand même le droit. Européen, alors que nous les avions respectés.
Mais tout ça sort.
La
c'est
question, si vous permettez.
Totalement dans les critères.
Si vous permettez.
Ou vous le savez, ou alors vous ne connaissez pas le dossier.
Vous avez été rappelé à l'ordre sévèrement, d'ailleurs, par Bruxelles, puisque vous n'avez pas respecté les engagements qui ont été pris.
Vraiment, je voulais qu'on en arrête là.
Mais
ce point,
totalement inexact.
D'autant que, Monsieur Copé, s'il vous plaît,
des critères de Maastricht.
Nous avons encore 8 minutes et des questions importantes à aborder, et notamment celles que vous avez vous-même engagées sur la modernisation. Alors parlons-en de la modernisation, puisque ces législatives peuvent contribuer en effet à ce que le paysage politique français change. Madame Guigou, la modernisation chez vous, à gauche, au Parti Socialiste, quelle forme peut-elle prendre au moment où les Français, dans un sondage CSA, d'ailleurs, s'interrogent sur la façon qu'a le Parti Socialiste de ne pas répondre aux enjeux de l'époque. Et les enjeux de l'époque passe-t-il par la nécessité, j'y reviens, pardonnez-moi, mais à de nouvelles alliances qui permettraient une vraie bipolarisation française avec un grand parti à droite et un grand parti à gauche, ce que semblent vouloir aujourd'hui les Français si l'on en croit les sondages. Est-ce qu'elle passe par là, la modernisation?
Ce serait en effet souhaitable que nous ayons, comme d'autres grandes démocraties européennes, un grand parti de gauche qui aille de la gauche jusqu'au centre-gauche. Mais pour arriver à faire ça, il suffit pas de le proclamer, de sauter sur sa chaise en disant un grand parti, les alliances, etc. Il faut faire du fond. Il faut que nous travaillions sur... En effet, sur les idées, sur le fond. Et moi, je vois deux grands sujets principaux sur lesquels nous allons devoir travailler dans les mois et peut-être sans doute les années qui viennent. Parce que le monde a changé, la société a changé, l'Europe a changé. C'est premièrement, quels sont les rapports entre l'individu et le collectif ? Entre cette aspiration que nous avons tous à la différenciation, au fait que nous avons des aspirations individuelles, nous voulons être pris en considération comme des individus, et néanmoins, parce que c'est pour nous la gauche très important, on peut pas dire simplement moi, il y a l'intérêt général. Quel équilibre, quel rapport trouvons-nous entre les deux? Et ça couvre tout le champ, finalement, du fonctionnement de la société. Le deuxième sujet qui me paraît fondamental, c'est le rapport à la mondialisation. Ce qui m'a navré dans cette campagne, pour l'élection présidentielle, c'est qu'on n'a pas du tout parlé du monde qui nous entoure, et même de l'Europe qui
Absolument.
Nous entoure. Et je ne vois pas comment on peut proposer décemment aux Françaises et aux Français un nouveau projet pour la France, pour notre pays, la France. Et je suis patriote, si on ne la situe pas dans l'Europe et dans le monde.
Mais comment on discute de ça avec qui, du coup? Est-ce qu'on discute de ça avec l'extrême-gauche, avec le MoDem de François Bayrou, avec le nouveau centre de M.
c'est
Morin?
C'est la bonne question, ça.
Mais merci, M. Gauguin.
Ah oui, c'est la bonne question.
Mais nous n'allons pas limiter de toute façon les discussions. Je pense qu'à partir du moment où le Parti Socialiste est au clair sur ses choix, et il faut qu'il soit au clair...
Mais alors il le fait d'abord lui-même tout seul.
Mais pourquoi non? On peut ouvrir les portes et les fenêtres, on peut discuter avec les autres, on peut confronter, au contraire. Je pense que ce sera souhaitable. Mais voyez-vous, nous avons des valeurs, un socle de valeurs. Nous sommes, on l'a bien vu dans notre discussion... Nous sommes pour, s'il doit y avoir des efforts, et il doit toujours y avoir des efforts, il faut qu'ils soient équitablement répartis. Donc, ces valeurs-là, elles sont là. Les valeurs de tolérance, les valeurs de laïcité. Nous sommes là-dessus. À partir de là, comment est-ce que nous rénovons cela dans le monde et dans la société qui nous entoure? C'est ça. Il ne s'agit pas d'abandonner nos fondamentaux, notre socle de valeurs. Certains voudraient nous les faire jeter à la poubelle. Il ne peut pas être question de ça. Il s'agit de dire, voilà le socle des fondamentaux de la gauche et comment est-ce que nous adaptons ces fondamentaux au monde et à la société d'aujourd'hui.
On a du mal quand même à comprendre comment vous allez vous élargir.
Bruno Gollnisch, dans ce système bipolaire, vous le placez où, le Front National? Et il parle avec qui, d'ailleurs?
Ben, je crois qu'il est bipolaire par contrainte. Il est bipolaire par l'effet des modes de scrutin. Il est et c'est ce qui contraint les Français à s'orienter dans des canaux qui sont préétablis, qui sont prédéterminés. Bon, je pense qu'il n'y a aucune raison qu'il soit bipolaire. D'ailleurs, il est beaucoup moins bipolaire qu'on ne veut bien le dire, puisque sur les questions que vient d'évoquer Madame Guigou, il n'y a pas grande différence entre Monsieur Copé et elle-même. Ils sont partisans de l'insertion de la France dans un ensemble européen qui est lui-même, et c'est ça le problème, qui est lui-même ouvert complètement mondialiste, qui n'est plus l'ensemble fondé sur la préférence européenne, qui n'est plus l'ensemble protecteur, où certes, les personnes, les produits circulent librement à l'intérieur de l'Europe, mais en revanche, n'entrent pas librement de l'extérieur de l'Europe. Et monsieur Copé parlait tout à l'heure, par exemple, du capitalisme, en disant le débat capitalisme, socialiste, un débat un peu dépassé, etc. Mais je rappelle à monsieur Copé qu'il y a des pays capitalistes qui nous font une concurrence impitoyable, et ces pays capitalistes, curieusement, ces paradis capitalistes nouveaux, ce sont les pays communistes comme la Chine, où les gens sont payés 20, 30, 40 fois moins que l'ouvrier, le cadre ou l'ingénieur français de formation équivalente, et dont les produits rentrent chez nous sans payer de droits de douane, où les salariés n'ont pas de protection sociale. Comme c'est un pays communiste, ils n'ont pas de droits de grève, ils n'ont pas de liberté syndicale, ils ne peuvent pas revendiquer. Et contre cela, je dois dire, et c'est ce qui nous choque beaucoup de nos électeurs, ni le parti de Madame Guigou, ni celui de Monsieur Copé n'ont pris jusqu'à présent aucune mesure.
Pardonnez-moi, Jean-Marie Le Pen aujourd'hui a déclaré qu'il était prêt au désistement républicain avec l'UMP en cas de réciprocité, évidemment.
National, mais ça n'est pas très nouveau. Et ça n'est pas du tout un appel du pied, ça n'est pas une offre de fiançailles ou de mariage à l'égard d'une formation.
C'est pas un petit rapprochement
idéologique que nous critiquons. Non, il y a plus de distance, c'est vrai, entre la gauche et entre nous d'une part, la gauche et l'extrême gauche d'autre part, qu'il n'y en a à l'égard des électeurs
que Nicolas Sarkozy
ou des hommes politiques.
Avait repris des idées qui vous étaient chères.
Exactement.
Alors pourquoi ne pas travailler avec lui?
Ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen, c'est que le désistement ne saurait être que réciproque. Monsieur Copé a tout à l'heure évoqué le fait qu'il y avait un candidat du Front National qui était présent au deuxième tour et il avait fait gagner la gauche. Oui, mais ça, c'est un argument absolument dérisoire, monsieur Copé.
Bah, écoutez, c'est pas ce qu'a montré l'arithmétique, ce jour sinistre de 97, où j'ai vu la députée socialiste élue avec la présence du Front National au deuxième tour.
Ce qui a fait gagner la gauche, c'est précisément le refus de votre parti de toute réciprocité. Car moi, par exemple, aux dernières élections, j'étais devant le candidat UMP à l'issue du premier tour, et nous étions prêts à nous désister à condition que ce désistement soit réciproque. C'est-à-dire, dans les circonscriptions où nos candidats venaient derrière les vôtres, ils auraient pu se retirer, à condition que la réciproque soit faite. Mais vous n'en avez jamais voulu.
Parce
et je vous rappelle qu'en 98, quand j'ai apporté mon soutien à vos amis politiques, qui est-ce qui s'est mis en travers? C'est Jacques Chirac.
Alors, et Nicolas Sarkozy.
Alors ne venez pas. Alors ne venez pas ensuite nous accuser de ne pas nous suicider pour vous faire plaisir.
J'ai rien dit. Voilà. J'ai dit simplement qu'on est content de gagner sans avoir fait d'alliance avec l'extrême droite parce que on a repris nos valeurs et que l'espace qu'on avait abandonné.
Les valeurs de
messieurs,
la droite nationale.
On s'arrête là pour l'instant. Merci à vous. D'abord à vous, Madame Guigou. Merci, Monsieur Gollnisch. Merci, Monsieur Copé. Dans quelques minutes après le journal d'Anna Passerelle, vous serez à nouveau en studio, mais cette fois pour répondre aux questions des auditeurs de France Inter. Ce sera le téléphone sonne avec Alain Bédoué.
Législative 2007. Premier tour. Deuxième partie. Vos questions 01 45 24 7000. Une émission animée par Alain Bédoué.
Seconde partie, tout est dit avant le journal d'Alain Passerelle. Elisabeth Guigou, Jean-François Copé et Bruno Gollnisch ont ouvert le débat. autour de Stéphane Poli et Hélène Jouan, qui est toujours là. Nous passons maintenant, comme promis, à la seconde partie pour répondre cette fois tout simplement, comme chaque soir, aux questions des auditeurs qui sont déjà au standard ou des internautes qui nous envoient leur courriel avec les trois mêmes invités. Elisabeth Guigou, donc, candidate, je le rappelle, sortante du PS dans la 9e circonscription de Seine-Saint-Denis, à Bondy, ancien ministre de la Justice et par ailleurs ancien ministre de l'Emploi, avec Jean-François Copé, candidat UMP dans la 6e circonscription de Seine-et-Marne, candidat à la présidence également du futur groupe UMP de l'Assemblée nationale, maire de Meaux, ancien ministre délégué au budget et ancien porte-parole du gouvernement, gouvernement Villepin, Bruno Gollnisch, candidat Front National dans la 13e circonscription du Rhône, à Mézieux-Dessines, directeur de campagne du FN pour les élections législatives, député européen. Et enfin, puisqu'elle nous a fait l'amitié de rester avec nous et qu'elle connaît par cœur la liste des adversaires de nos trois invités, Hélène Jouan, qui dirige le service politique de France Inter.
01 45 24 7000.
Comme on peut s'en douter, vous êtes nombreux à nous appeler les uns parce que vous écoutiez le débat d'il y a trois quarts d'heure avec Stéphane Paoli, les autres parce que vous prenez comme ça, vous tournez le bouton de France Inter en cours de route. Donc on ne perd pas de temps, un premier courriel qui se transforme en appel téléphonique maintenant, celui de Niels. Bonsoir d'abord, vous êtes en Côte d'Or à Arc-sur-Tille, je crois que c'est près de Dijon.
Exactement.
Oui, eh bien, bonsoir, bienvenue sur Inter, on vous écoute.
Et merci de prendre ma question. Donc, depuis quelque temps, comme chaque fois qu'il y a des élections législatives, la future opposition, enfin je dirais la future opposition présumée, nous dit qu'il est très important pour la France d'avoir une opposition forte. J'aimerais savoir très concrètement quelle importance peut avoir une opposition forte.
Par rapport à une opposition tout court, c'est ce que vous avez en tête.
Il me semble que si cette opposition a 5% des sièges ou si elle a 45% des sièges, son influence est toujours zéro. Si vous me permettez de donner un seul exemple, les 35 heures, on sait que toute la droite ne loupe jamais une occasion pour tirer sur les 35 heures. À ce moment-là, la droite constituait une opposition réellement forte. Qu'est-ce qu'elle a pu faire pour empêcher cette loi? Rien. Elle est simplement plus nombreuse pour chahuter. Et est-ce que vraiment ça, c'est dans l'intérêt de la France, d'avoir une opposition qui fait des bouts, qui tape des pieds, etc., mais qui, en fait, ne peut absolument rien faire contre la majorité?
Je vais vous proposer la réponse de nos invités, qui veut commencer peut-être Elisabeth Guigou, puisqu'on parlait de possible opposition, mais je n'anticipe absolument les résultats de ces premiers tours.
Voilà,
Madame Guigou.
Ce sont les Français qui décident. Juste une précision, il n'y a pas que Bondy dans ma circonscription, il y a aussi Noisy-le-Sec et Romainville, je le dis.
Tout à fait.
Quel est l'intérêt d'une opposition forte? D'abord, nous pouvons empêcher des choses. Dans la dernière législature, nous avions 150 députés à peu près. Nous avons réussi à empêcher que le contrat première embauche qui s'adressait aux jeunes et qui prévoyait qu'on pouvait s'en débarrasser, les licencier comme ça, sans motif, nous avons réussi à empêcher que ce contrat première embauche soit adopté. Parce qu'il y a eu, justement...
C'est l'opposition parlementaire qui a vraiment empêché ça?
Deux choses. Le travail de l'opposition parlementaire, qui en effet a fait en sorte que le débat a été très vif et très long, avec beaucoup d'amendements, qui a fait comprendre au pays qu'il y avait un vrai, vrai problème, et puis naturellement, la mobilisation sociale. Une deuxième chose que nous avons réussi à empêcher, c'est la suppression de la loi SRU, vous savez, qui dit qu'il faut 20% au minimum de logements sociaux dans chaque commune, qui n'est pas respectée, mais la majorité précédente voulait la supprimer. Donc, voilà deux choses importantes. J'ajoute que nous n'avons toujours pas, et ça, c'est en partie dû à l'opposition parlementaire, nous n'avons heureusement pas encore la privatisation de Gaz de France. Parce que le sujet est ailleurs et qu'il est dans la question de savoir comment on peut fabriquer un grand pôle, n'est-ce pas, en France, sur les questions d'énergie. Donc voilà, ça n'est pas... quand on est plus nombreux, on peut faire ça parce qu'on arrive à à meubler et à être là dans les séances, toutes les séances de l'Assemblée nationale, dans les séances des commissions, dans les séances de nuit. S'il y en avait eu que 20 députés, on n'aurait pas pu faire ça.
Alors, sur l'importance de d'une politique, d'une largeur, d'une éventuelle majorité ou de l'étroitesse, à contrario de l'opposition, on va vous proposer, bien sûr, les réactions de Jean-François Copé et Bruno Gollnisch, mais auparavant, Hélène Jouin, non seulement c'est la loi, mais c'est aussi, après tout, la règle de l'honnêteté intellectuelle. Nos trois invités représentent ce soir le Parti Socialiste, l'UMP et le Front National, mais je l'ai dit, ils sont également eux-mêmes candidats dans des circonscriptions précises face à des adversaires qui ont tout à fait le droit qu'on les cite au moins. Donc, pour Madame Guigou, nous vous écoutons. Je disais tout à l'heure que vous aviez ça dans la tête, quand même pas, vous avez pris quelques notes.
Je vais dire, c'est plus prudent.
Et puis après, quand Monsieur Copé prendra la parole, on fera de même pour lui, ainsi que pour Monsieur Gollnisch.
Alors, dans la 9e circonscription donc de Seine-Saint-Denis, Jean-Paul Bureau, Lutte Ouvrière, Erwan Hiver pour la LCR, Céline Kurt pour le Parti Communiste, Anne Déo pour les Verts, Ahmed Moalek d'Hiver Écologie, Alain Duc d'Hiver, Samir Semaï d'Hiver, Jean Tari pour le Modem, Georgia Vincent pour l'UMP, Marie-Estelle Préjean pour le Front National et Gilles Barial pour le MNR affronteront donc Madame Guigou pour le Parti Socialiste.
Voilà, et maintenant donc la parole à Jean-François Copé pour répondre toujours à cette question de Niels sur la largeur ou l'importance politique d'une majorité large, très large. Monsieur Copé.
Je comprends très bien qu'à ce stade de la dernière ligne droite de la campagne législative, Madame Guigou explique qu'il vaut mieux avoir une opposition la plus importante possible en nombre de sièges. Elle aurait dit le contraire, elle m'aurait surpris. Et donc vous comprendrez de la même manière que je vous fasse exactement la démonstration inverse. Il nous faut évidemment la majorité la plus large possible. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que compte tenu de l'ampleur des réformes que nous avons à faire, nous avons besoin d'un message fort des Français. Les Français, ils ont très largement approuvé le projet de Nicolas Sarkozy en l'élisant avec 53% des voix, ce qui est beaucoup. Eh bien évidemment, maintenant, ce dont nous avons besoin, c'est une majorité parlementaire suffisamment forte à l'Assemblée pour pouvoir mettre en œuvre ces réformes.
Mais c'est une légitimation même plus forte d'avoir 400 députés que 360
Je pense que, avoir une majorité forte, ça veut dire avoir eu beaucoup de Français qui ont voté pour nous. Et donc, quelque part, ça donne une légitimité forte, notamment lorsqu'il s'agira ensuite de mettre en œuvre ces réformes et d'en discuter avec des partenaires qui ont leur part de légitimité. Je pense par exemple aux partenaires sociaux, aux syndicats ou même au monde associatif, au monde professionnel, qui ont leur légitimité, mais une légitimité qui n'est pas tout à fait de même nature que la légitimité souveraine du suffrage universel.
En même temps, c'est turbulent, une forte majorité. Est-ce que vous n'avez pas peur d'en avoir trop ?
Non, d'abord, écoutez, ça c'est une question que je trouve absolument surréaliste. C'est la nouvelle mode, c'est de dire est-ce que ce serait un drame d'avoir trop ou pas. C'est tout ça n'a pas de sens. Il y a une seule chose qui compte, c'est de l'emporter, de convaincre les Français de nous donner la majorité. Mais aussi, je veux dire juste une chose, parce que la remarque de votre auditeur est très importante, c'est que dès lors que nous avons à cœur de demander aux Français de nous donner une large majorité, il faut aussi respecter les droits de l'opposition, d'où cette idée de réfléchir, comme l'a proposé Nicolas Sarkozy, à un statut pour l'opposition, pour qu'elle puisse aussi avoir, de ce point de vue, un pouvoir de contrôle. Et puis, je le dis moi aussi, parce que je suis président du groupe, je suis candidat, pardon, à la présidence du groupe de la majorité, si nous sommes élus et si mes amis députés me font confiance, oui, ce qui n'est vraiment pas mon genre dans ce domaine, c'est surtout que c'est une élection et qu'il faut naturellement prendre le temps nécessaire, ce que je m'efforce de faire pour rencontrer chacun de mes amis députés. Mais juste un mot, il faudra aussi réfléchir à un bon équilibre entre la majorité et l'opposition, et donc aussi des droits pour la majorité dans sa relation avec le gouvernement.
Avant d'écouter la réponse de Bruno Gollnisch, même exercice, Hélène Jouin, les adversaires dans la 6e circonscription de Seine-et-Marne de Jean-François Copé, nombreux également.
Georges Millot, Lutte Ouvrière, Jean-Marc Georges pour la LCR, Alain Muller pour le Parti des Travailleurs, Jean-Pierre Bontou pour le Parti Communiste, Monique Papin pour le Parti Socialiste, Julie Nouvion pour les Verts, Éric Arles d'Hiver Écologie, Olivier Fischer d'Hiver, Yannick Perrand pour le Modem, Georges Martin pour le MPF, Marie-Christine Arnaud-Thu pour le Front National et Jacques Houdin pour le MNR.
Bruno Gollnisch, pour répondre toujours à cette première question d'un auditeur.
Je trouve que l'observation de M. Niels là est assez juste. Et c'est, à mon avis, une dégradation du climat politique dans notre pays. C'est que de plus en plus dans les assemblées locales, aussi bien que nationales, on a, à cause des modes de scrutin qui ont été voulus, des majorités absolument automatiques. Et effectivement, on peut se poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux donner un certain nombre de points au président de groupe politique, quelquefois, et puis voilà, il se retrouverait à 4 ou 5 autour d'une table, et puis, ma foi, ceux qui ne disposent pas des atouts seraient systématiquement battus, plutôt que d'entretenir un personnel politique aussi nombreux. Moi, je crois que si le scrutin était proportionnel, c'est-à-dire si tous les courants étaient représentés, s'il n'y avait pas nécessairement de majorité automatique, on ferait comme l'on a fait en France autrefois, et ça n'était pas si mal que ça, comme on fait dans de grands pays modernes qui sont fort bien gérés, où le chef du gouvernement, mais pour ça il faut qu'il y ait un vrai chef de gouvernement, dont les prérogatives sont distinctes de celles du chef de l'État, le chef du gouvernement s'efforce sur chaque point, sur chaque projet, d'obtenir des majorités particulières. Et il peut mettre telle ou telle composante du Parlement d'accord avec lui sur tel sujet et sur tel autre, essayer de faire appel à d'autres. C'est beaucoup plus fatigant. C'est beaucoup plus difficile. Ça suppose un effort pour convaincre.
C'est beaucoup plus mais ça s'appelle
la démocratie. Mmh. En ce qui concerne la stabilité, le correctif, je l'ai dit tout à l'heure, le correctif est très simple, que l'on puisse renverser un gouvernement que si l'on dispose d'une majorité qui s'entende sur le nom du successeur. C'est ce que les Allemands appellent la motion de défiance constructive et ça fonctionne très bien.
À qui, monsieur Gollnisch, Hélène, devra-t-il faire face dans la 13e circonscription du Rhône?
Alors, Yves Petiot pour Lutte Ouvrière, Sylviane Moulia, LCR, Isabelle Chanvillard pour le Parti communiste, Martine David pour le Parti socialiste, Véronique Moreira pour les Verts, Florence Gay, MEI, Azedine Afar, Divers, Salah Bougami, Divers, Kalima Damouche-Benz, Divers, Chantal Janton pour le Modem, Philippe Meunier pour l'UMP, Anne-Marie Dubost, UMP dissident, Gérard Andrieux pour le MPF.
Pierre, bonsoir, merci d'avoir patienté. Vous êtes, je crois, en direct de Lyon. Bienvenue sur l'antenne, on vous écoute.
Bonsoir. Oui, mais moi je me pose une question qui va encore plus loin que l'auditeur précédent. Je me dis que en tant que citoyen très lambda, comme on dit, tous les sondages donnent une large majorité à la droite. Le gouvernement annonce des mesures pour le mois de juillet, donc en fin de compte après les législatives. À droite aussi, ils sont pas toujours d'accord, enfin, ils se battent un tout petit peu pour être le président de l'Assemblée nationale. Donc en gros, la victoire de la droite est annoncée. Donc moi je me pose une question. Est-ce que je vais aller voter? Est-ce que je ne vais pas faire, en fin de compte, est-ce que je ne vais pas donc choisir une abstention, faire, en fin de compte, comme quelqu'un qui n'est pas allé voter au deuxième tour parce que il était certain que Nicolas Sarkozy l'emporterait tellement le sondage le donnait gagnant, c'est-à-dire la première dame de France, sa propre femme. Je me pose vraiment cette question-là. Est-ce que je vais aller voter alors que la première dame de France, elle n'est pas allée voter au deuxième tour des présidentielles?
Je vais laisser nos invités vous rappeler, mais enfin, jusqu'à plus ample informé, je vous rappelle quand même que ce ne sont ni les sondeurs, ni les journalistes qui, le cas échéant, relaient peut-être un peu vite les sondages qui font l'élection, c'est vous. Et le premier tour aura lieu dimanche. Je referme la parenthèse, mais enfin, monsieur Copé.
C'est très touchant de vous entendre dire ça. Effectivement, ce ne sont ni les sondages, ni les journalistes qui font les élections, ce sont les électeurs. Et il ne faut pas oublier qu'une élection, elle a lieu le jour du vote.
Alors,
et seulement
qu'est-ce
le jour
qu'on
du
peut
vote.
Dire à Pierre de Lyon qui dit j'hésite, je ne sais pas si je vais y aller.
Et bien qu'à partir du moment où il a des convictions et qu'il veut les exprimer, la meilleure manière pour le faire, c'est d'aller voter et de ne pas penser un instant que les choses doivent pouvoir se faire sans lui. Et on a besoin de lui, quelles que soient ses convictions. Et il faut qu'il y aille.
Bruno Gollnisch.
A fortiori, s'il vote pour un candidat qui est favorable à Nicolas Sarkozy, enfin, ça ne me regarde pas.
Le vote est libre.
Jusqu'à cette dernière phrase, j'étais presque d'accord avec M. Copé. Je dirais à Pierre que je comprends, quelles que soient ses idées politiques, qu'il ne nous a pas exposées, ça le regarde. Je comprends à la limite qu'il n'ait pas voté au deuxième tour de l'élection présidentielle, puisqu'il se pouvait qu'aucun des deux candidats ne lui convienne. C'était aussi mon cas. Mais je pense quand même que le choix aujourd'hui est très large. On le voit dans les circonscriptions que l'on nous dit, il y a 12, 13, 14 candidats. Je pense qu'il y en a quand même dont il se sent plus proche que d'autres. Et par conséquent, je lui conseille, en tout état de cause, au premier tour de l'élection législative, de se déplacer pour aller voter. Parce que si les Français ne décident pas eux-mêmes de leur destin, ben d'autres en décideront à leur place.
Madame Guigou.
S'il suffisait d'avoir des sondages, je veux dire, autant supprimer les élections. Voilà, comme ça, ce serait plus simple. Donc, je crois que ce serait la négation de la démocratie. Deuxième chose que je voudrais dire à Pierre, c'est que les électeurs qui n'ont pas voté Nicolas Sarkozy, ils sont quand même 47%, ben ils ont le droit d'être représentés et défendus à l'Assemblée nationale.
Mais est-ce que là, il n'y a pas un risque de démobilisation? C'est ce qu'on entend quand même, et pour la gauche, évidemment, en particulier.
Bien entendu, mais c'est contre ça qu'il faut réagir, parce que ce serait quand même terrible de voir que les 53% qui sont allés vers Nicolas Sarkozy deviennent 80% à l'Assemblée nationale. Ça, ce serait pour notre démocratie vraiment un fléau, je crois. Et pourquoi? Ben parce qu'une démocratie, ça existe quand il y a des contre-pouvoirs. Et le seul contre-pouvoir possible aujourd'hui, parce que le président de la République tient tous les pouvoirs, il a l'exécutif, il est partout, on le voit partout, il a le Sénat, il a le Conseil supérieur de l'audiovisuel, il a le Conseil supérieur de la magistrature, il a le Conseil constitutionnel où il n'y a plus qu'un conseiller de gauche, et il n'y a plus qu'à l'Assemblée nationale que peut s'exprimer une autre opinion, une opposition.
Il y a aussi 22 régions socialistes et 50 vraiment départements socialistes.
Oui, mais on parle de la politique nationale. Ah, et par conséquent, j'engage non seulement nos électeurs à aller voter, bien entendu, et à ne pas se laisser submerger par la déception, car ça existe, et le risque existe, mais aussi, bien entendu, de se souvenir qu'il faut voter dans le même sens qu'à l'élection présidentielle.
François, bonsoir. François, vous êtes en Lorraine pour votre part. Bienvenue à vous aussi.
Oui, eh bien, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir à France Inter et merci pour vos émissions qui sont très intéressantes. Mais qu'est-ce qu'on peut bouillir derrière nos postes de radio pour ne...
Bah oui, là vous avez l'occasion un peu de soulever le couvercle de la marmite. Voilà, alors, qu'avez-vous en tête?
Je voudrais simplement, moi, revenir sur le cumul des mandats parce que tout ce qui est dit est intéressant et il faudrait faire le débat avec une seule personne. Donc, je vais essayer d'être concis. Je suis non-voyant, j'ai 70 ans. J'ai été premier adjoint d'une petite commune de 3000 habitants pendant une mandature, et je me suis rendu compte combien était le travail d'une part d'un premier adjoint et en plus celui du maire. Alors je comprends mal qu'un maire d'une localité importante, parce que 3000 c'est petit, mais la plupart des maires qui sont ou députés ou un autre mandat au niveau national ont souvent des localités beaucoup plus importantes. Et je ne sais pas comment ils peuvent faire leur travail en étant proches de leurs administrés, proches de leur personnel. Alors si, il y a une façon. C'est que ce que les élus ne disent jamais, c'est que très souvent, on élit une personne, on va voter pour une personne, que ce soit un député ou un maire, et ensuite ce maire engage un chef de cabinet qui va être la personne qui va souvent faire la relation entre le public, voire le personnel, et le maire. Or, moi je regrette, mais lorsque l'on va voter, même si l'on ne connaît pas la personne, il y a une profession de foi, on se fie sur cette profession de foi, sur le parti politique pour lequel on veut voter, mais en tout cas, on ne va pas ni voter pour le chef du personnel de la mairie, ni encore moins pour un chef de cabinet qui est embauché après les élections. Alors, dans ces conditions, je comprends qu'on puisse accumuler plusieurs mandats. Et si les députés n'avaient pas plusieurs mandats, peut-être y aurait-il un peu plus de monde à l'Assemblée nationale. Et comme le disait Madame Guigou tout à l'heure, y aurait peut-être des lois qui ne passeraient pas dans ces conditions. Donc je précise que je suis plutôt tendance parti socialiste, bien que n'ayant
pas... Eh bien, vous l'avez dit, et c'est votre droit le plus absolu, vous faites bien évidemment, je le précise pour les auditeurs qui étaient au travail et qui viennent de tourner le bouton, vous faites bien évidemment allusion au débat qui a eu lieu durant la première partie de cette émission de 2 heures, première partie qui était animée par Stéphane Poli, avec également Hélène Jouan, par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Qui veut réagir, Madame Guigou? Tous les trois, voulez-vous commencer, Madame Guigou?
Non, mais... Cette question du cumul des mandats, elle cristallise quoi?
En tout cas, elle revient très souvent sur Internet, au téléphone.
Parce que c'est fondamental. On ne revalorisera pas l'Assemblée nationale si on n'a pas un mandat unique parlementaire. Parce qu'il y a justement des limites physiques à ce que quelqu'un peut faire, quelle que soit son intelligence. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut à la fois qu'un élu, un député, satisfasse à la fois la nécessité d'être à l'Assemblée nationale pour voter les lois, les préparer, faire les auditions nécessaires. C'est un boulot considérable qu'on ne voit pas souvent, parce qu'on parle de l'absentéisme, mais il y a tout un travail caché qu'on devrait d'ailleurs davantage montrer, et puis pour être en proximité avec ses électeurs. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin nécessairement d'un mandat local pour être en proximité avec ses électeurs. Moi, je considère que, ayant qu'un seul mandat, je n'ai que mon seul mandat de député, eh bien, je suis avec mes électeurs. J'ai fait, vraiment, j'ai reçu 3000 personnes dans mes permanences. Mmh. Voilà. J'ai traité plus de 4000 dossiers, moi, avec mon assistante parlementaire. Ben, qu'est-ce que vous voulez, ça vous permet de vraiment voir très concrètement ce qu'est la vie des gens et ce dont ils ont besoin.
Cumule des mandats toujours, Bruno Gollnisch,
oui,
par
c'est
rapport
vrai,
à ce que vous disiez il y a une heure.
Monsieur qui est intervenu a raison, c'est très difficile d'exercer bien un mandat parlementaire et en même temps la direction de ce qu'on appelle un exécutif local, c'est-à-dire d'une ville, surtout d'une ville importante et même d'une petite ville parce que c'est souvent très absorbant dans des petites communes et on a moins de personnel pour vous aider. Et ou d'un des présidents d'un département, président d'une région, c'est très difficilement cumulable avec le mandat parlementaire. Ceci étant, moi, ce que j'observe quand même, Madame Guigou, sans agressivité, c'est que le gouvernement de Monsieur Jospin n'a pas réalisé la réforme que vous préconisez aujourd'hui. Vous avez à juste titre limité les mandats en pratique à deux, un mandat local, un mandat national. Le risque qui existe tout de même, c'est qu'on ait une caste de parlementaires qui soit totalement coupée des réalités locales. Je ne suis pas du tout choqué par le fait qu'un député ne s'occupe que de son mandat de député. Ce que je pense, c'est qu'il faut lutter contre l'absentéisme en tout état de cause. Et pour lutter contre l'absentéisme, je vais vous dire ce qu'il faudrait faire.
Le système européen.
Ce qu'il faudrait d'abord, c'est que, puisque maintenant il y a beaucoup de chaînes qui sont accessibles par le câble, par le satellite, et notamment des chaînes parlementaires, que les débats soient davantage montrés. Et pas seulement la séance des questions au gouvernement de 15 à 17 heures. Voilà, parce que ça, y compris les débats en commission, pourquoi pas, eh bien là, les Français se rendraient compte et verraient qui est là et qui n'est pas là. Et c'est ça, c'est une puissante incitation à la présence des parlementaires. Et la deuxième chose, c'est que, comme c'est le cas au Parlement européen, l'indemnité soit proportionnelle sous une forme ou sous une autre à la présence. C'est-à-dire que, au-delà d'un certain nombre d'absences, si vous n'avez pas signé la liste d'émargement, si vous n'avez pas participé à un certain nombre de votes, eh bien, on vous retranche votre indemnité. Ce serait une mesure parfaitement naturelle et qui ne me choquerait pas.
Le cumul des mandats, monsieur Copé.
Bon, c'est une question éternelle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis personnellement, partisan de laisser la liberté de choisir, de cumuler, non pas 36 mandats, c'est grotesque, mais deux mandats, c'est-à-dire un mandat national et un mandat local, parce que je pense que, en réalité, ça enrichit considérablement la qualité des travaux d'une assemblée que d'avoir parmi les députés des gens qui ont également des responsabilités de maire, parce que c'est vrai, quand vous êtes maire, c'est pas tout à fait la même chose que d'autres responsabilités. Vous êtes au cœur d'un certain nombre de décisions, au cœur et au contact de vos administrés avec lesquels vous proposez des choix. Moi, j'en ai fait l'expérience à Meaux depuis 10 ans maintenant et je peux témoigner que ça ne donne pas les mêmes débats à l'Assemblée que d'avoir des élus locaux qui y siègent.
Mais ce que vous dit François, l'auditeur, c'est qu'il y a un petit peu tromperie sur la marchandise. Il élit un maire, et c'est son chef de cabinet ou son directeur de cabinet qui effectivement mène la politique parce que le maire ne peut pas tout faire, parce qu'il fait autre chose en même temps.
Je suis désolé, mais je cumule depuis 10 ans le mandat de maire et un mandat national, sauf durant la période où j'ai été battu à l'Assemblée nationale, entre 97 et 2002. Je n'ai pas le sentiment que ce soit ni mon chef de cabinet ni quiconque qui décide à ma place des grandes orientations
pendant
pour la
moment,
ville dont
Lionel
je suis
Jospin,
le maire.
Dont vous n'étiez effectivement pas un ministre, mais Jacques Chirac avait demandé effectivement qu'il n'y ait pas de cumul entre une fonction de ministre.
Comme vous êtes bon connaisseur de l'actualité politique, vous vous souvenez que j'ai été de ceux qui ont décidé de reprendre ma mairie de mon poste de maire de Meaux. Non, j'ai pas résisté. J'ai dans un premier temps renoncé en étant premier adjoint et puis je suis redevenu maire parce qu'à la suite des événements qui se sont produits dans les banlieues et qui fort heureusement ont épargné la ville de Meaux qui pourtant a des quartiers difficiles, j'ai considéré qu'il était de ma responsabilité d'assumer directement la responsabilité de maire tout en restant au gouvernement, et je ne crois pas avoir été pour autant ni un mauvais maire, ni un mauvais ministre du budget. En tout cas, pas plus ou moins que les autres.
Un autre François dans l'Isère, cette fois. Bonsoir, bienvenue à vous aussi.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de prendre ma question.
Mais je vous en prie.
À messieurs et mesdames. Ma question est la suivante, elle s'adresse plus particulièrement à monsieur Copé.
Il vous écoute.
J'ai un fils actuellement au chômage, et je voudrais savoir en quoi le fait de majorer, d'encourager les gens à faire des heures supplémentaires va permettre à mon fils de trouver un travail.
Alors, monsieur Copé vous répond, madame Guigou, monsieur Gollnisch pourront donner un point de vue, évidemment, bien sûr, s'ils le souhaitent. Monsieur Copé.
Disons les choses très clairement, les heures supplémentaires, elles sont destinées à ceux qui ont un travail. mais dont on peut considérer qu'il est grand temps de leur permettre, malgré le blocage des salaires liés aux 35 heures, que s'ils le souhaitent, ils peuvent gagner plus en travaillant plus. Car si on produit plus, et c'est ça notre grand handicap, si on arrive à produire plus grâce aux heures supplémentaires, on distribuera plus de salaires, et avec ça, les salariés consommeront, puisqu'ils auront plus de salaires, ils auront plus de revenus, ils pourront consommer plus, embaucher, investir, et ça fera évidemment, ça motivera évidemment et ça dynamisera l'économie, qui alors verra des entreprises avoir besoin d'embaucher plus, et là, assez naturellement, ça accélérera la baisse du chômage. Deuxième élément que je voudrais dire pour votre fils, c'est que je ne connais par définition, je ne le connais pas, et que donc je ne sais pas quel est son profil. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'un chômeur n'est jamais égal à un autre. On n'est pas dans la même situation avec un jeune de 25 ou 27 ans qui est au chômage, qui est parfois dans des logiques d'échec scolaire ou dans des logiques d'exclusion, ou qui parfois est victime de fléaux tels que la drogue, ou bien, à l'inverse, d'un jeune très diplômé qui a du mal à trouver un emploi, ou bien encore d'un monsieur ou d'une dame qui aurait 52 ou 53 ans et à qui on dirait dans une entreprise, ben monsieur ou madame, vous partez, on vous licencie parce que, entre guillemets, vous êtes trop cher et vous avez déjà 52 ans. Ce qui est le monde à l'envers quand on sait que dans notre société, on doit pouvoir vivre plus longtemps et donc à ce titre, eh bien, réserver une place aux seniors. Donc là, qu'est-ce qui est à prévoir? Qu'est-ce qu'on est en train de prévoir? Une réforme complète du service public de l'emploi avec un suivi personnalisé. D'ailleurs, moi, je l'ai expérimenté un mot, c'est ce qu'on appelle l'école de la deuxième chance, et ce sont des programmes très modernes dans lesquels on fait un suivi personnalisé de chacun. On a regroupé ensemble dans les maisons de l'emploi les gens qui sont à la NPE, les ACEDIC, les organismes de formation, les collectivités locales, pour veiller à ce qu'il y ait une bonne transparence entre les offres d'emploi proposées et les formations de ceux qui demandent un emploi. Il faut être très pragmatique dans ce domaine. Ce que je constate, c'est que d'autres pays l'ont fait et ont bien réussi.
Sur les heures supplémentaires, Madame Guigou, ensuite Monsieur Gollnisch, Madame Guigou.
Non, mais moi, je suis vraiment très opposée à ce système. Pourquoi? D'abord parce que, évidemment, que ça va pas encourager l'embauche et même ça va la dissuader, parce que quand la croissance va reprendre et quand les contingents d'heures supplémentaires seront remplis, parce qu'actuellement on en est quand même très loin, parce que la croissance est quand même très atone, eh bien qu'est-ce que va faire un chef d'entreprise? Il préférera évidemment faire des heures supplémentaires plutôt que d'embaucher. Donc ce sera très défavorable à ceux qui sont aujourd'hui au chômage. La deuxième raison, c'est parce que il y a quand même un risque de fraude considérable. De déclarer, pour ceux qui seront peu scrupuleux, des heures supplémentaires alors qu'elles n'auront pas été faites. Et ça, tous les économistes, de droite comme de gauche, l'ont souligné. Enfin, pour les salariés, c'est très mauvais. Pourquoi? Parce que dans ces heures supplémentaires qui ne donnent pas lieu à cotisations sociales, on ne comptera pas les cotisations retraite, on ne comptera pas les cotisations qui vont vers les ACEDIC. Finalement, on a l'impression que ce système, ça revient à légaliser le travail au noir. Voilà.
Monsieur Gollnisch.
Non, je crois que c'est une bonne chose que les gens puissent gagner plus en travaillant plus et en faisant des heures supplémentaires, mais ça ne peut pas tenir lieu de politique de l'emploi. Ça, c'est clair. Et le principal problème de l'emploi, selon le Front National, tient à ce que une concurrence impitoyable nous est faite dans un contexte de mondialisme par des pays dont les ouvriers, et non seulement les ouvriers, mais aussi demain les cadres, les ingénieurs, sont payés 20, 30, 40, 50 fois moins que les Français, sans protection sociale, sans retraite, sans droits syndicaux, sans liberté de contester, comme c'est le cas par exemple en Chine, mais aussi dans beaucoup d'autres pays. Et c'est cela qui provoque les délocalisations. C'est cela qui provoque les dépôts de bilan, la désindustrialisation de notre pays qui est dramatique, et c'est cela qu'il faut corriger en premier.
Bonsoir Florence, vous êtes dans les Alpes-Maritimes, je crois.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, bienvenue.
Voilà, ma question concernait encore le cumul des mandats.
Oui.
Je me demandais comment il était légalement déjà et puis éthiquement possible de cumuler une fonction à la fois de ministre et de député. D'une part parce qu'une journée n'a que 24 heures et que le Premier ministre se demande comment il peut honorer son rôle de député. Et d'autre part, est-ce que ce n'est pas contradictoire à la fois d'élaborer une loi en tant que ministre et de la valider en tant que député? Est-ce que ce n'est pas être juge et parti?
Vous savez, il y a des suppléments, les suppléants qui précisément sont là.
Il faut dire les choses, je crois qu'il faut que les informations soient bien connues. La Constitution interdit le cumul de mandats entre députés et ministres. Donc le sujet, si je puis dire, n'existe pas.
C'est-à-dire que les ministres, aujourd'hui, il y a 11 ministres qui effectivement se présentent.
Voilà.
Le ministre qui se présente sera immédiatement démissionné.
Il n'a même pas le droit de siéger, c'est son suppléant qui lui succède.
Oui.
Monsieur Gollnisch.
Oui, alors que ça n'est pas le cas, par exemple, en Grande-Bretagne ou au Japon, mais enfin, ça c'est leur problème. Mais ce qui est dit est vrai. On ne peut pas être en même temps et ses ministres et députés. Je dois dire aussi, pour préciser, en ce qui me concerne, je suis à l'heure actuelle au Parlement européen.
Député européen.
Il va de soi que si les électeurs me font l'honneur de m'envoyer à l'Assemblée nationale, je quitterai le Parlement européen. J'y serai d'ailleurs, et
obligé.
C'est heureux, obligé par la loi, c'est évident.
Madame Guigou.
Oui, mais je crois que c'est très intéressant de voir toute cette afflux de questions sur le cumul des mandats. Ça veut dire que les Françaises et les Français, et vous Florence, vous avez bien compris qu'il faut un Parlement qui existe pour faire respirer une démocratie. Et il faut savoir, il faut montrer davantage le travail qui se fait au Parlement. Quand nous avons eu la commission d'enquête sur l'affaire Doutreau, qui a passionné les Françaises et les Français, qui a été montré intégralement sur les chaînes parlementaires, eh bien, nous avons siégé 250 heures. Est-ce qu'on se rend compte de ce que ça représente? 250 heures. Je ne le regrette pas personnellement, parce que je crois que nous avons fait un travail considérable, dont malheureusement, oui. Le gouvernement n'a tenu aucun compte ensuite.
Oui, mais Madame Guigou, moi j'ai souvenir, par exemple, en octobre 87, à l'Assemblée nationale, j'étais très critiqué pour avoir protesté contre l'absentéisme. Un débat sur la drogue qui a duré deux jours et trois nuits, où il n'y avait que deux personnes, Monsieur Franceschi et Madame Trottmann, pour représenter le parti socialiste. Une seule personne, Madame de Panay, rejointe ensuite par M. Toubon pour représenter le RPR, tout ça sur plus de 100 parlementaires. Une seule M. Assensi pour représenter le Parti communiste et une seule M. Dailly pour représenter l'UDF. En revanche, le groupe Front National, lui, était présent, et bien présent. Il avait une majorité absolue et la poignée de collègues qui existaient ailleurs tournait les clés de vote pour les absences, ce qui est à la fois une violation de la Constitution, de la loi organique et du règlement
là,
de l'Assemblée.
Mais tout ça est maintenant interdit puisqu'on ne peut plus voter pour ses collègues. Donc maintenant, le vote est personnel.
C'était une précision de Jean-François Copé. Une autre précision apportée par Madame Guigou.
Non, mais je crois que comme au Parlement européen, il faut que le vote devienne vraiment personnel. Voilà.
Alexandre à Toulouse est-il là? Alexandre n'est pas là, alors on va prendre
Bonsoir.
Sophie dans la Somme. Bonsoir Sophie.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, donc ma question, c'était pour Monsieur Copé.
Il vous écoute
en
également.
En fait, il admire beaucoup la modernité de Nicolas Sarkozy de donner un statut à l'opposition. Et en fait, je voulais savoir ce qu'il pensait des propositions de Ségolène Royal dans son pacte présidentiel de mettre les personnalités de l'opposition à la tête du Conseil supérieur de la magistrature et du CSA.
Bon, Jean-François Copé.
J'ai juste une interrogation, c'est que j'avais compris que l'objectif était quand même plutôt de dépolitiser ces institutions et qu'il me semble que de ce point de vue, la bonne formule est probablement celle qui consiste, et d'ailleurs c'est Nicolas Sarkozy qui l'a proposé, peut-être serait-ce une manière pour moi de vous guider vous aussi peut-être vers les idées de Nicolas Sarkozy, en tout cas je prends le risque, d'imaginer qu'on fasse ratifier les principales nominations à des postes de responsabilité de l'État par l'Assemblée nationale, sous la forme d'une majorité qualifiée, c'est-à-dire associant aussi bien des parlementaires de la majorité et des parlementaires de l'opposition, ce qui est une manière d'agir en équité. Donc voilà une formule qui...
Ça pourrait jouer pour quelle institution?
Ça je peux pas vous dire encore, parce que ça il faut vraiment y réfléchir, et je peux pas vous lancer comme ça des listes que j'ignore, mais en tout cas l'esprit, eh bien celui-là, il faut ensuite qu'on y réfléchisse. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que, comme je souhaite m'engager beaucoup sur ces questions, si mes amis députés me font confiance et qu'ils m'élisent président du groupe de futur de l'UMP, si nous gagnons les élections, eh bien moi je souhaiterais sans attendre constituer un groupe de réflexion de parlementaires sur cette question, au moins de la majorité, puis peut-être d'y associer l'opposition s'ils en sont d'accord. Ce sont des sujets majeurs qui peuvent moderniser considérablement nos institutions sans changer la constitution, sans changer de constitution, c'est-à-dire sans passer à la 6e République. Parce que ça complique quand même beaucoup les choses. Il faudrait faire une élection présidentielle. Si on changeait de République, ce serait vraiment dommage.
Madame Guigou et ensuite Monsieur Gollnisch.
Oui,
Madame Guigou.
Je suis heureuse de voir qu'il peut y avoir un consensus en effet sur la nécessité d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale qui inclut l'opposition pour les nominations dans ces grands organismes représentatifs de la République qui doivent pouvoir être tenus en dehors, je dirais, des enjeux politiciens. Et ça, c'est très important. Ce serait très important parce qu'aujourd'hui, c'est quand même assez scandaleux de voir qu'au Conseil constitutionnel, sur 9 membres, il n'y en a qu'un, c'est Pierre Joxe, qui est de gauche, et que maintenant tous les autres sont de droite. J'ajoute que pour le Conseil supérieur de la magistrature, là je souhaiterais moi qu'il y ait une réforme constitutionnelle. Je l'avais proposée, elle a été bloquée par l'ancien président de la République, Jacques Chirac. Je crois qu'il n'est pas logique que ce soit le président de la République qui préside le Conseil supérieur de la magistrature. Je crois qu'il faut que ça devienne un organe complètement indépendant, et que d'ailleurs, dans les nominations des magistrats, puisque la justice est indépendante, le garde des Sceaux respecte les avis du Conseil supérieur de la magistrature. Là, nous aurions vraiment une démocratie qui commencerait à ressembler aux autres démocraties européennes.
Monsieur Gollnisch.
Oui, je crois, moi, que la, avec le Front National, d'ailleurs, que la politisation de la magistrature, pas de toute la magistrature, heureusement, mais d'une part importante de la magistrature, ça n'est pas tellement dû au Conseil supérieur de la magistrature. C'est dû à l'existence de syndicats politisés, comme en particulier le syndicat de la magistrature, qui, d'ailleurs, a pris des positions extrêmement politique, polémique, a parfois dans certains documents conseillé la partialité idéologique, et notamment à l'encontre du Front National, ce qui laisse planer, évidemment, pour l'égard du justiciable, et bien un doute quant à l'impartialité des magistrats. Que les magistrats aient leurs opinions, qu'ils soient de droite ou de gauche, c'est parfaitement leur droit. Qu'ils l'expriment au sein d'organismes politisés, c'est tout à fait scandaleux. Et nous en avons eu des exemples. Et puis il y a aussi Madame Guigou, et vous en portez la responsabilité, d'ailleurs également avec monsieur, avec le RPR, enfin avec l'UMP, avec monsieur Toubon, il y a toutes ces lois idéologiques qui entendent dicter, sous des sanctions pénales, ce que l'on a le droit de dire sur l'immigration, ce qu'on a le droit de dire sur l'histoire, ce qu'on a le droit de dire en morale,
ça,
par exemple,
sur
non, mais ça concerne aussi des gens de votre parti, monsieur Copé. Quand, par exemple, monsieur Perben a fait voter une loi soi-disant destinée à réprimer l'homophobie, et moi je considère que les choses soient claires, que l'homosexualité fait partie de la vie privée, et que ça ne concerne pas l'État. Mais cette loi destinée à réprimer l'homophobie, et qu'un de vos collègues, c'est un collègue de votre majorité, monsieur Van Est, a dit, mais moi je préfère quand même que les enfants soient adoptés dans une famille composée d'un papa et d'une maman, eh bien il s'est trouvé condamné.
C'est pas pour ça qu'il a été condamné.
Il a dit que si l'homosexualité se généralisait, eh bien ça poserait un problème pour la survie de l'espèce ou de la nation. Ses propos étaient critiques, je ne les reprends pas à mon compte, mais ils n'avaient rien d'injurieux. Ils font partie du débat moral. Il doit avoir le droit de les exprimer. Il a été traîné devant les tribunaux correctionnels. Ces lois liberticides sont de plus en plus intolérable, et les uns comme les autres, vous ne les avez pas votés. S'agissant de la loi Guesso à laquelle vous faites allusion, je vous signale que lorsqu'elle a été votée, votre collègue Toubon disait « c'est une loi stalinienne, ce que vous êtes en train de faire ». Un certain Staline l'a fait, ça figure au journal officiel des débats de l'Assemblée nationale, il a été garde des Sceaux, ministre de la Justice dans le gouvernement suivant, il l'a maintenu intégralement. C'est à des choses comme cela que l'on mesure la valeur des promesses de votre formation politique.
La double réponse de M. Copé, de Mme Guigou, Jean-François Copé.
Sur quoi ?
Sur ce que précisément disait à l'instant Bruno Gollnisch et les accusations concernant cette loi qu'il estimait liberticide, quel est votre point de vue ?
Non, j'ai absolument pas de commentaire à faire là-dessus. Heureusement qu'il y a des lois dans notre République qui ne protègent de propos racistes, xénophobes, antisémites, qui sont contraires à nos valeurs. Et il est vrai qu'un certain nombre de personnalités, qui n'en sont d'ailleurs pas, se sont crus obligés à tenir des propos absolument indignes des valeurs qui sont les nôtres, remettant en cause des pages les plus noires de notre histoire, les niant, et que tout cela mérite évidemment d'être sanctionné. Et je crois que c'est l'honneur de notre République de l'avoir fait.
Madame Guigou.
Et que ceux qui, au Front National, se demandent pourquoi la droite n'a pas fait d'alliance avec eux, pensent aussi à cela.
Ben, ce que M. Gollnisch appelle les lois liberticides, c'est tout simplement les lois de la République qui proscrivent le racisme, l'antisémitisme, le révisionnisme, l'homophobie, c'est ça, c'est ce qui fonde une démocratie, c'est ce que la Convention européenne et internationale des droits des personnes prescrit, et c'est évidemment ce pourquoi M. Gollnisch, bien entendu, a été condamné. D'ailleurs.
La Convention européenne ne proscrit pas, par exemple, le fait que les nationaux soient préférés aux étrangers dans leur propre pays. Cependant, si aujourd'hui un Français réclame cela, il risque d'être traduit devant les tribunaux. C'est, encore une fois, comme le disait M. Toubon, à propos de la loi Guesso également sur l'histoire, qui n'a pour but que de masquer les crimes du communisme, ce sont des lois staliniennes que vous avez maintenues. Il y avait des lois, la loi de 1881 sur la presse, qui réprimait l'injure et la diffamation. C'est une loi séculaire, parfaitement rodée, et qui était tout à fait suffisante.
Anne-Marie, bonsoir. Vous êtes en Ille-et-Vilaine, je crois. Bienvenue.
Oui, bonsoir, merci de prendre ma question.
Mais je vous en prie.
Je voudrais revenir sur ce que disait Mme Guigou à propos qu'elle souhaitait, pour les législatives, avoir une opposition assez forte.
Oui.
Or, malheureusement, ce que nous connaissons en France de l'opposition, c'est surtout, bon, je caricature parce qu'il faut aller vite, c'est surtout le non systématique. Alors on dit non dans des débats où il n'y a pas d'échange vraiment de réflexion profonde et sérieuse. On dit non parce qu'on va sortir immédiatement dans la rue. Voilà. Et c'est un petit peu gênant, c'est un petit peu, bon, encore une fois, une caricature que je fais de l'opposition. Et je voudrais savoir comment, Madame Guigou particulièrement, et les autres bien sûr, peut-être, voient le rôle de l'opposition pour qu'il soit constructif. On le sent beaucoup plus chez des Allemands et chez d'autres, je ne vais pas m'amuser à citer. Bon, merci de me répondre.
On va vous répondre, vous proposer en tout état de cause des arguments de réponse, des éléments de réponse. Madame Guigou, puisque c'est elle que vous interpellez d'abord.
Oui, Anne-Marie, alors je vous dirai d'abord que moi je vais vous annoncer d'avance ce sur quoi je m'opposerai si je suis élue, si les électeurs me font confiance à l'Assemblée nationale. Je serai contre les 4 nouvelles franchises qui vont augmenter les déremboursements de soins. Je serai contre les allègements d'impôts pour les plus privilégiés au détriment de l'augmentation des impôts pour les plus pauvres. Je vais être contre la détaxation des heures supplémentaires. Je serai contre le fait qu'on ne prend pas d'engagement pour construire de nouveaux logements sociaux. Je serai pour l'augmentation des effectifs de police et des effectifs pour la justice au tribunal de Bobigny et en Seine-Saint-Denis pour contrer justement ce rapport qui a montré à quel point on en avait besoin. Je serai pour l'augmentation des effectifs à l'éducation nationale, spécialement dans les services de ZEP. Et j'approuverai des propositions du gouvernement, si notamment nous avons en effet un respect effectif de l'opposition, parce que je crois que c'est comme ça que vit une démocratie, mais c'est précisément parce que nous n'avons pas ce respect-là, ni dans les mécanismes institutionnels, ni d'ailleurs dans les propos qui sont tenus par Monsieur Fillon récemment, qu'eh bien nous avons cette crispation qui, à bien des égards, moi aussi, je déplore.
Votre vision de l'opposition, Monsieur Coffey?
Oui, Anne-Marie. Vous craignez d'être dans la caricature, ben vous l'avez pas été, vous voyez, parce que vous avez Madame Guigou qui vous a dit absolument qu'elle serait sur le non, sur l'ensemble des réformes que nous allions proposer, à l'exception d'une seule, c'est-à-dire la mise en place d'un statut de l'opposition. Remarquez heureusement qu'elle est favorable au moins à cette réforme-là, sinon effectivement on sera dans le non systématique. Alors moi, là-dessus, je pense qu'il y a une manière de faire changer les choses, j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, c'est d'imaginer, de faire évoluer le mandat de député, c'est-à-dire que le député doit continuer à débattre de la loi, à l'amender, à la voter, mais qu'il soit aussi plus renforcé dans sa capacité de contrôle de l'action gouvernementale, de contrôle de l'efficacité gouvernementale, comme ça se fait dans tous les grands parlements des pays d'Europe. Et ça, ce serait une manière de faire évoluer les choses, et peut-être alors aurons-nous le plaisir d'entendre Madame Guigou et ses amis dire pour une fois oui.
Votre vision de l'opposition au Front National,
je
Monsieur Gollnisch?
À Anne-Marie, que le Front National, qui a la réputation usurpée d'être une formation extrémiste, ce qu'il n'est pas, ne pratique pas l'opposition systématique. Et que ce soit de gauche comme de droite, quand ses adversaires disent des choses qui lui paraissent justes et conformes à l'intérêt général, il le reconnaît. J'ai reconnu tout à l'heure que c'était une bonne chose, par exemple, de détaxer les heures supplémentaires. J'ai reconnu tout à l'heure que c'était une bonne chose que de permettre aux gens qui accèdent à la propriété de défalquer les intérêts de leurs emprunts, de leurs impôts. Cependant, et on en a eu un exemple à l'instant, c'est utile une opposition, parce que on en a eu un exemple tout à l'heure. J'ai dit, mais quand même, plafonner ça à 750 euros par an, c'est pas grand-chose. Et on m'a dit non, 3750 euros. Eh bien, en réalité, de quoi s'agit-il? C'est 3750 euros d'intérêts. Mais il n'y a que 20% qui seront déductibles des impôts, soit 750 euros. Autrement dit, il est utile qu'il y ait une opposition pour préciser justement cela et pour démonter un petit peu quelquefois les effets d'affichage d'un gouvernement. Je pense que c'est nécessaire. Et puis, le Front National a été le grand laboratoire d'idées de la Ve République. Les problèmes qu'il a soulevés, aujourd'hui tout le monde les reconnaît, en particulier Monsieur Sarkozy et même Monsieur Copé, mais ces problèmes de l'immigration, de l'insécurité, de l'identité nationale, de l'Europe, personne ne les admettait jusqu'à une date relativement récente.
Une dernière question, Hélène Jouan, je vous laisse la poser.
Juste une opposition qui du coup dirait oui ou non selon les projets effectivement que le gouvernement pourrait lui proposer, ce serait selon vous du coup une opposition moderne, d'après ce que j'ai cru comprendre?
Exactement, oui.
François Bayrou a exactement ce programme-là pour la législature qui arrive. Est-ce que vous trouvez que c'est un opposant moderne?
C'est-à-dire, le problème c'est qu'ensuite quand on regarde le détail de ce qu'il dit, on se rend compte qu'une fois qu'il a juste dit ça, pour le reste il est tout le temps contre. Moi je ne l'ai jamais entendu à aucun moment effectivement.
Dans la dernière législature, il a voté avec vous.
Dernière législature, il a censuré le budget que j'ai présenté. Deux fois, qui pourtant était en cohérence totale avec les idées de ses électeurs de l'époque. C'est-à-dire que je présentais un budget dans lequel on baissait la dépense, on baissait les impôts, on baissait le déficit, et il a voté contre. Ce qui est quand même gaguesque quand on pense que par ailleurs, il donne toute la journée des leçons pour nous expliquer qu'il ne faut pas faire de politique politicienne. Il avait choisi une posture, et cette posture l'a amené à nous donner beaucoup de leçons de morale, mais à ne jamais se les appliquer à lui-même, et je l'ai pour ma part regretté.
Premier tour donc dimanche de ces élections législatives. Merci à tous les trois à l'issue de ces 2 heures d'émission spéciale. Merci à tous, bonsoir, à demain.
C'était une émission spéciale législative dirigée par Alain Bédoué avec Elisabeth Guigou, Jean-François Copé, Bruno Gollnisch et Hélène Jouan.